102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Précisément midi, une minute, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission d'En Jase, ton rendez-vous du midi depuis le mois de septembre avec Jeff Fortin, Pascal CV. Numéro pour nous joindre, 418-971-1021, donnez votre opinion. BLVD.fm pour nous écouter sur la web radio et les meilleurs moments de l'émission s'y retrouvent également. L'application BLVD 101 sur l'App Store, le Google Play Store, twitch.tv/BLVD/FM. Pascal CV, t'as l'air en forme. Comment ça va?
Ça va très bien. Oui, ouais. Très en forme. Retour au gym officiel là, depuis mon arrivée. Il fallait que j'y aille.
C'est le fun, ça.
Relax. Alors, ce matin, la machine est repartie.
Parfait.
Toi, comment ça va?
Ça va super bien. Hey, parlant de gym, c'est mon entraînement cardio le mercredi soir.
Oh! Je sais pas comment tu fais ça le soir.
Hier, là, ouais, c'est, j'avoue, j'étais jamais quelqu'un qui s'entraînait le soir, mais là, pas le choix avec l'horaire de radio que j'ai. Et hier, c'est rare, ça arrive, mais moi et Christine, une fille qui s'entraîne toujours dans notre groupe, on a pogné le mal de cœur tellement qu'on a poussé.
Vous avez poussé fort.
L'enfer.
Mais c'est capoté comment? Selon ce que tu manges dans la journée, la manière dont tu t'hydrates, la manière dont tu vas avec ton sommeil et tout ça, ça joue là, sur ta performance.
Ben, en effet, j'avais pas fait de sieste dans l'après-midi parce que j'avais une rencontre. Je suis allé aider. J'étais allé au Patro Laval, puis j'en ai profité pour une petite rencontre-là, puis j'en ai profité pour les aider avec l'aide alimentaire. C'est l'enfer, les besoins. C'est
ah,
fou,
ouais, même au Patro. J'imagine ça, c'est un des organismes. Oh, là, qui,
non, non,
qui,
c'est
qui
complètement capoté.
Ça.
Fait que là, j'avais pas fait ma petite sieste. J'ai pris un petit café de plus au Patro. Fait que ça a fait que je suis arrivé à l'entraînement pas comme d'habitude.
Ouais, mais ça fait toute la différence.
Mais bon, c'est fait. Un matin, mes jambes le ressentent. Puis je suis content de l'avoir fait.
Oui, honnêtement, là, c'est une des plus belles choses qu'on peut s'offrir dans la vie. Parce que souvent, on va investir dans tellement de choses. Dans le linge, le maquillage pour les filles, les cils, les ça. Puis on se posera pas tant de questions.
T'as raison.
Mais vient le temps, des fois, de payer pour de l'activité physique. Puis on fait, ah, ça va peut-être me coûter cher. Hey,
ça va
c'est de l'investissement pour ta santé.
Mais hein, ça vaut tellement la peine. Puis d'ailleurs, hier, dans l'actualité, on avait le recul de la marche. Ça, j'ai trouvé ça très questionnant. Les gens qui ont arrêté de marcher, qui marchaient en pandémie, faut que les gens demeurent actifs.
En même temps, là, quand je lisais ça, moi, je me disais, ouais, mais on marchait parce qu'on n'avait vraiment rien à faire. Là.
Bon, voyons donc.
Moi, je marchais tous les jours pendant 2 heures parce que j'avais absolument rien à faire.
C'est ça. Bon, là, Pascal, je t'explique ce qui va arriver, d'accord? Là, je vais appuyer sur un bouton sur la console, puis c'est la thématique du caucus qui va partir. Surprends-toi pas, compte tenu qu'on va jaser politique, OK? Mon avocat va rentrer dans le studio.
D'accord.
Il va venir à côté de moi parce que là, on va parler avec Antonine et j'ai peur, OK? Fait que je commence par peser sur le bouton.
Le caucus.
Maître!
Le caucus.
Maître, rentrez, maître!
Voici Antonine Iaccarini.
Je pourrais pas tout dire ce que tu veux, assurément, on va te regarder et peut-être t'aider avec la syntaxe ou le choix des mots.
Ouais, exactement. Alors, Antonine Iaccarini, comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Ça brasse.
Excellent. Moi, j'ai pas de commentaires.
OK, fait que comment on va faire pour faire notre chronique, si tu dirais?
Mon avocat me dit que je dois pas trop parler.
OK, ça va faire de la bonne chronique, ça?
Ouais, mais attends, là, fais quelque chose. Envoie-moi quelque chose.
Ah, ouais, ben c'est ça. Dans le fond, je vais t'envoyer une mise en demeure pour que tu me parles pendant la chronique.
Ah, d'accord. Attends, je vais regarder mon
avocat. On va faire comme tout le monde.
Ben c'est ça. OK, je regarde mon avocat. Oui, ben c'est parce qu'elle fait partie de mon équipe. Oui, elle est chroniqueuse avec moi depuis le mois de septembre. Oui, Pascal, c'est ma co-animatrice. OK. Ah, il me fait un signe que je peux parler, mais il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. On est correct? On est à l'aise?
OK, fais bien attention. OK, ouais. Ben regarde, je vais te donner une chance, Jeff, parce que je vais parler. Fait que tu peux juste hocher de la tête si tu veux, puis ça ne sera pas retenu contre toi. Ça te
non, mais ça n'a pas de bon sens.
Alors, dans les mises en demeure...
Dans même équipe,
écoute,
on se garoche chaque coup de mise en demeure. Ben oui. Hey, on est dans un dossier politique. Là. On peut-tu faire de la politique?
Ben justement, c'est fou hein, comment les enjeux politiques et les enjeux juridiques peuvent entrer en contradiction. On le voit tellement cette semaine. Donc là, on en est où là, dans les mises en demeure? La dernière en lice, c'est mise en demeure de Geneviève Hinze. Donc, Geneviève Hinze, qui était la directrice de cabinet officiellement de Marois Risky, mais qui est en fait la directrice de cabinet de Pablo Rodriguez, parce qu'il y avait comme deux chefs au Parti libéral, un peu comme chez QS, a envoyé une mise en demeure à Marois Risky pour la sommer d'expliquer les raisons de son congédiement. Parce qu'on rappelle les faits, Marois Risky a jeté à la porte la directrice de cabinet en début de semaine et sans donner aucune explication sur les raisons, outre parler d'une faute grave. Donc là, qu'est-ce qui arrive quand on lance ça dans l'espace public et qu'on n'explique pas c'est quoi la faute grave? Ben, on spécule, on imagine, on pense que c'est des affaires peut-être plus graves même.
On l'interprète. Là, il y a des textos qui arrivent avec un brownies. On dit « Ah ah, tu vois, c'est elle qui faisait en sorte que Pablo, le monde qui votait Pablo avait 100$. » Là, après ça, on dit « Ah, il y a des dépenses de l'Assemblée nationale. Ah ah, elle s'est servi de l'argent de l'Assemblée nationale pour que Pablo se promène partout. »
Donc, Geneviève Hintz considère que ça entache sa réputation, évidemment, parce qu'on peut se questionner sur sa probité, sur son intégrité, sur son honnêteté à Geneviève Hintz, qui, il faut le dire, est en politique depuis de nombreuses années déjà et qui, dans sa mise en demeure et dans ses commentaires là, cette semaine, disait qu'elle n'a jamais, évidemment, été accusée de quoi que ce soit, soupçonnée de quoi que ce soit, qu'elle a toujours été intègre dans tout ce qu'elle a fait. Donc là, maintenant, la mise en demeure a été envoyée hier soir par son avocat et on donne 24 heures à Marois Risky, donc là, il y a déjà pas mal d'heures de passer, pour expliquer les raisons du congédiement, parce que Marois Risky se taire dans un silence, elle aussi, bardée de son avocat, depuis qu'on l'a croisée là, à la sortie de sa rencontre avec Pablo Rodriguez, elle refuse de parler. Et politiquement, c'est terrible, parce que comment M. Rodriguez ou Mme Hintz peuvent se défendre de quelque chose quand on ne sait même pas qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est juste le bout qui concerne le congédiement de Geneviève Hintz, parce que tu le disais tantôt, en plus de ça, on a les captures d'écran qui parlent qu'on a payé pour des gens qui allaient voter pour Pablo Rodriguez pendant la course à la chefferie. Je ne suis même pas certaine que les deux ont un lien ensemble pour l'instant, mais tout ça là, est mélangé parce qu'on est dans une espèce d'épais brouillard. Et moi, je pense que Marois Risky, elle doit s'expliquer. Elle ne peut pas laisser les choses comme ça. Je comprends que peut-être elle est confiante de gagner sur toute la ligne, sur l'aspect juridique, mais politiquement, c'est sûr que son parti politique en ce moment en paie le prix. Et je ne suis pas certaine qu'elle non plus va ressortir bien gagnante politiquement de tout ça. Oui, elle a une bonne image, Marois Risky, à l'extérieur, mais le fait de refuser d'expliquer, je pense qu'à un moment donné, même les gens qui trouvent qu'elle est très bonne et qui pensaient qu'elle était la justicière dans cette situation-là vont se dire « Ben voyons donc, là, à un moment donné, là, dis-le là, ce qui s'est passé. »
Ben moi, je vais être bien honnête. T'sais, dès le départ, j'étais « OK, c'est passé de quoi de gros, Marois Risky a ça dans ses mains et là, elle prend les précautions. » Fait que j'avais tendance à la protéger. Mais là, on est rendu à jeudi, midi 8, ça traîne depuis lundi. Ça n'a pas de sens qu'il n'y ait pas d'explication donnée de sa part et qu'elle se taire avec un avocat. Je veux dire, tu sais, elle n'a sûrement pas tombé sur trois meurtres qui s'est fait pour que Pablo Rodriguez passe à la chefferie des libéraux, là.
Bien là, c'est ça. Fait qu'elle espère, c'est un moment de spéculation. Puis Marois Risky, c'est une femme extrêmement intelligente. Si elle a fait ça, parce que là, évidemment, on spécule aussi sur pourquoi avoir congédié Mme Hintz sans en parler à Pablo Rodriguez. Et on se dit, bon, peut-être qu'elle a voulu faire bouger les choses, peut-être qu'elle avait levé certains drapeaux et que ça bougeait pas assez vite. Mais une fois que c'est fait, là, pourquoi garder le silence absolument? Et là, en plus, je reviens à cette histoire de brownies, là, de vote qu'on avait payé. Hier, c'était la conférence de presse de Pablo Rodriguez. On a écouté ça avec attention, tout le monde. On pensait peut-être avoir plus de réponses à nos questions, mais je suis ressortie de ce point de presse-là, je ne sais pas pour toi, avec plus de questions que de réponses.
Oui.
Le brouillard s'est épaissi. On ne comprenait pas qui a appris quoi à quel moment, mais ce qu'on a compris à travers un peu le charabia là, de cette conférence de presse-là, c'est que les textos dans lesquels on parle de brownies ont circulé depuis le printemps dernier. Et que même Mme Risky était au courant, le président du Parti, ouais, du Parti libéral.
Raphaël Primo Ferraro.
Merci beaucoup. A indiqué que Mme Risky avait été mise au fait de ces rumeurs-là depuis le printemps dernier. Donc, si c'était vraiment ça la raison pour mettre quelqu'un dehors, ça faisait longtemps qu'elle était assise sur l'information.
Exactement. Et si tu permets, on va écouter justement l'extrait de Raphaël Primo Ferraro, président du Parti libéral du Québec. Et Pascal, l'information importante qui est tombée, c'est ouais. qu'Élections Québec confirme que je peux donner des brownies pour être élu chef d'un parti politique.
Ben, la question a été posée effectivement à Élections Québec, puis ce qui vient de sortir en fait comme bon, justification ou réponse, c'est que dans le contexte d'une course à la chefferie, la loi électorale prévoit pas d'infraction pour interdire à quelqu'un de verser un don en échange d'un vote. C'est un courriel qui a été envoyé par Julie Saint-Arnaud-Drolet, qui est porte-parole d'Élections Québec. Alors, on a essayé de gratter, je pense, journalistiquement parlant, la question dans les dernières heures.
Ça, Antonine, par contre, c'est un parti politique qui te respecte, tu vas empêcher ça là, dans tes règles?
Bon, deux choses. Premièrement, sur la gestion que le Parti libéral a faite de toute cette affaire-là, c'est sûr que c'est délicat. Tu reçois de l'information, c'est un peu dur à vérifier. Moi, une conversation texto comme ça en capture d'écran, je peux t'en fabriquer une en 5 minutes. Mais de nous dire maintenant que ça justifie une enquête, mais que ça ne le justifiait pas au printemps passé, c'est juste le climat autour de toi. C'est juste que c'est sorti dans les médias. C'est la seule différence. Donc, pourquoi on a besoin maintenant de cette enquête-là? D'ailleurs, je te disais qu'on sort avec plus de questions que de réponses. Qui va faire cette enquête-là? Quand est-ce qu'on va avoir les réponses? Qui va être interrogé? On ne sait rien. Donc, pour l'instant, ça demeure aussi tout aussi flou. Là, sur la question de la légalité de la chose, c'est vrai que dans une course à la direction, les règles ne sont pas aussi serrées du côté du DGE, du directeur général des élections, que pendant une élection générale. Mais ça n'a aucun sens. Il faut absolument qu'on remplisse ce trou législatif-là et réglementaire-là parce que si on peut payer des gens pour acheter des cartes de membre puis pour voter pour un chef, ben c'est un enjeu démocratique aussi important qu'une campagne électorale. Là, la seule manière que le DGE a de, disons, pincer quelqu'un qui fait ça, c'est si, par exemple, on paye des gens et ce sont des dépenses qui ne sont pas déclarées. Parce que dans une course à la chefferie, tu dois déclarer toutes tes dépenses. Mais comment tu veux que le directeur général des élections aille enquêter au point de trouver un bénévole qui donne des 100 $ cash en dessous de la table? C'est impossible. Donc, il faut vraiment que ce soit ajouté dans la loi. Puis en attendant, politiquement, c'est intenable parce que comment veux-tu que le parti prouve que ça n'a pas eu lieu? C'est ça, là, la situation politique dans laquelle on se trouve présentement. Prouver le contraire.
Parce que sinon, on revient au temps de la commission Charbonneau et je m'explique. Tu as un grand entrepreneur qui va dire « Parfait, moi, c'est Pablo Rodriguez que je veux. Avoir, voilà 100 000 $, distribuer 100 $ pour que ça vote. » Puis après ça, quand Pablo est premier ministre, « Toc, 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 exact. Monsieur le premier ministre, amenez les contrats
vous
du ministère. »
Vous me devez quelque
chose. Oui.
Exactement. Puis ça rappelle de très mauvais souvenirs à certains libéraux hein, parce que il y a un passé. Et ça n'a jamais abouti sur des accusations, sur des condamnations. Mais bon, écoute, je suis parlé à des libéraux qui étaient là à l'époque pour savoir qu'il s'est passé certaines choses, qu'il y a un ménage qui a dû être fait après l'ère Charest et peut-être les années auparavant. Il y avait eu toutes sortes de reportages d'enquête aussi sur toutes sortes de choses. Donc, ça fait remonter au Parti libéral vraiment des vieux fantômes. Et imagine comment c'est démobilisant. Peut-être aussi pour des libéraux qui n'étaient même pas là à l'époque, de se retrouver face à ces rumeurs-là qui sont extrêmement difficiles à nier. La moindre des choses du Parti libéral, ça aurait été de faire ces enquêtes-là et ces actions-là dès que les informations sont arrivées à leurs oreilles. Écoute-toi, là, t'es à la tête d'un parti politique, t'apprends qu'il y a ça qui circule. Hey, t'attends pas, tu dis pas, je vais espérer que ça apparaisse jamais nulle part. Tu prends les devants.
Surtout que ça apparaît au mois d'avril et que l'élection du chef est au mois de juin. Donc, tu acceptes que dans ta course à la chefferie, il se passe peut-être, parce que je le laisse au conditionnel,
il y a un doute.
Des ouais. actions qui sont somme toute légales avec le DGE, mais qui sont clairement pas éthiques pour un parti politique.
Non, tu veux t'assurer que ta course à la direction, elle s'est passée dans les règles de l'art. T'attends pas avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête que ces textos-là là, que tu as vu passer, puis qu'effectivement, tu peux pas prouver, puis t'es pas certain. Mais tu te dis, on va faire toutes les vérifications, de s'assurer dans chacune des équipes qui a le droit de solliciter, qui vend des cartes de membres dans vos équipes. On fait le tour, on fait le ménage et quitte à donner effectivement à une firme externe pour faire l'enquête. Mais la réalité, voici ce qui s'est passé dans leur tête. Ben non, si on fait quelque chose, ça va attirer l'attention et là, ça va faire les médias, alors que peut-être qu'on est capable de balayer ça sous le tapis. On va se dire la vérité, là, c'est ça qui s'est passé. On ne peut pas le prouver, on va prendre une chance de laisser ça couler.
Admettons que, finalement, tout soit dans la légalité, même si on est sur la fine ligne, OK? Est-ce que l'image du parti est entachée puis ça va faire ce que ça va faire comme problématique publique pour la suite?
Oui, parce que quand tu as un historique de quelque chose, tu repars pas de zéro quand il arrive d'autres événements, malheureusement. Le Parti libéral commençait à réussir à se sortir de cette image-là. Là, je vais réutiliser les mots de Paul Saint-Pierre Plamondon d'il y a quelques temps et d'Alex Boissonneau, autre député du PQ, qui a réutilisé le mot « corruption » hier pour parler des libéraux. Bien, c'est une étiquette de laquelle il essaie de se débarrasser depuis des années, depuis le départ de Jean Charest, et qui continuait de coller. Écoute, à chaque fois que je vois des publications du Parti libéral sur les médias sociaux, un article qui parle du Parti libéral, il y a encore aujourd'hui toujours des commentaires pour dire que c'est des croches, que c'est des crooks en bon français, etc. C'est une étiquette qui leur colle à la peau. Alors là, juste d'avoir des allégations, vraiment, là, ça les ramène là-dedans. C'est comme si l'étiquette recommençait à leur être collée au visage. Puis il faut quand même, moi je reviens à Marois Risky, elle savait bien qu'en démarrant une tempête comme celle-là, c'est ce qui allait se passer. J'ai l'impression qu'elle a voulu se dégager, elle, de tout ça, en se disant, tant pis si je mets le feu dans le bateau, moi, je débarque avec mon canot de sauvetage.
Non, en effet, c'est vraiment une opération de sauvetage individuel. En tout cas, ça apparaît ça de plus en plus. Ça ne sera pas possible, je termine là-dessus sur ce sujet-là, Antonine. Ça ne sera pas possible, le Parti libéral, de recoller les pots avant l'élection qui est dans 11 mois. Là, t'sais, là on était à 17 % pour le vote francophone. On avait frappé les bas-fonds à 4 %. J'ai l'impression que le vote francophone va chuter drastiquement parce que c'est chez les francophones qu'on se rappelle du mot corruption beaucoup lié au Parti libéral. Alors, je vois pas les libéraux être capables de se battre au coude à coude avec le PQ, là, avec ce qui vient d'arriver.
Puis surtout à voir comment la crise est gérée à l'heure actuelle, parce que, évidemment, je pense que le parti aurait pu passer à travers cette histoire de texto, parce que, comme je te le dis, moi, je ne suis pas convaincue par cette affaire-là, je trouve ça mince. Et les gestes qui ont été posés par Geneviève Vince, bien, on ne sait pas c'est quoi. Fait que là, c'est dur pour nous d'évaluer la gravité dans le silence à l'heure actuelle. On verra qu'est-ce que c'est si jamais Mme Risky sort de son silence. Mais après tout ça, même si on règle ces deux questions-là et qu'on décide qu'on passe à autre chose, bien, cette crise-là, elle a aussi fait ressortir les divisions importantes au sein du caucus. Tu sais, à l'extérieur, ça a l'air joli et beau, Marois Risky est populaire, mais on se rend compte avec cette crise-là qu'il y a pas mal de monde qui ne l'aime pas beaucoup à l'intérieur du parti. Là, il y a son chum, son mari qui est encore à l'intérieur du caucus, Greg Kelly. Bonjour l'ambiance, là. Je ne sais pas comment il va se comporter la semaine prochaine.
Et ça l'a fait ressortir la fragilité de Pablo Rodriguez. Donc ça, il n'y a rien de bon là-dedans.
Voilà.
Là. Les gens votent PQ présentement beaucoup pour Paul Saint-Pierre Plamondon. D'ailleurs, il a diminué un peu dans les sondages depuis qu'il chicane avec tout ce qui bouge. Là, Pablo Rodriguez est fragile. Puis la CAQ, on n'arrête pas de dire s'ils mettent un nouveau chef, pourrait redevenir populaire. Donc, tu sais, ça passe beaucoup par le chef, là.
Tu as tellement raison. Le chef est vraiment important dans les choix politiques qui sont faits. On est dans un système politique et médiatique qui met tellement les chefs de l'avant. Et effectivement, cette crise-là, elle a mis de l'avant les faiblesses de Pablo Rodriguez, qui est, moi, je trouve, lent à réagir, pas solide dans ses affirmations, dans ses communications. Sa conférence de presse hier, là, il essayait d'être dans l'émotion, mais c'était de mauvais ton de nous parler du fait que sa fille a de la misère à dormir. Écoutez, là, je veux bien avoir de l'empathie pour sa fille. Je suis sûre qu'elle est très gentille, sa fille, mais ça n'a aucun rapport. Pourquoi vous voulez qu'on ait pitié de vous? Dites-moi ce que vous êtes en train de faire pour redresser la situation. Et moi, si j'étais Pablo Rodriguez, j'aurais, dès le départ, commencé à marteler sans arrêt que Marois Risky dise qu'est-ce qu'elle a vu ou on passe à autre chose, qu'on puisse avancer ensemble. Comment voulez-vous que je corrige une situation si on ne me dit même pas qu'est-ce que c'est? Je trouve qu'il manquait, qu'il était un peu washy-washa, là, si vous me permettez l'expression. Et il est comme ça depuis qu'il a été élu chef. On le constate. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Marois Risky lui faisait autant d'ombrage, c'est qu'il n'est pas toujours solide comme je pense les militants du Parti libéral auraient voulu.
Hier, on écoutait le point de presse en ondes, donc on n'a pas pu le prendre au complet. T'sais, on l'écoutait avec les auditeurs en le mettant en ondes directement en live. Effectivement, il avait l'air un peu dans l'émotion, mais troublé. Puis moi, je me disais, mais il arrive presque à me convaincre qu'il n'était pas au courant de ce qui se passe par comment il se livre. Quand je l'ai réécouté après l'émission, effectivement, le bout, il il parle de sa santé personnelle là-dedans, santé familiale et
blancs.
Tout ça.
J'ai les cheveux blancs. Je ne suis pas dans ma première crise politique.
Ça, je suis tellement d'accord avec Antonine. Puis j'aime ça ce que t'amènes, Antonine, en disant « Moi, dès le départ, j'aurais dit Marois Risky doit dire ce qui se passe parce qu'on ne peut pas gérer en conséquence. » Mais est-ce que il y a encore une possibilité qu'il soit zéro, zéro, zéro au courant de tout ce qui est allégué?
Zéro, zéro, c'est dur à dire, ce serait un problème. Parce que si Pablo Rodriguez ne sait pas ce qui se passe dans son propre parti, ça met en lumière une très grosse problématique de gestion et de leadership de sa part. Moi, je pense que la réalité se trouve un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il doit être mis au courant de certaines choses. Mais je le crois quand il dit qu'il ne sait pas pourquoi Geneviève Vince a été mise à la porte, étant donné que Marwalski se terre dans un silence. Là, je veux dire, c'est fort possible qu'elle a décidé de garder le silence par rapport à son chef également. Maintenant, les captures d'écran, elles circulent depuis 9 mois. Fait que ça, tout le monde est au courant.
Hey, Antonine, ça me fait penser, puis je termine là-dessus avec Geneviève Weiss. Pourquoi André Fortin la réembauche pas? T'sais, pourquoi Pablo Rodriguez dit pas André Fortin, hey, prends-les donc, là, on va régler le problème?
Oui, en ce moment, en fait, sa réputation à Geneviève Weiss, elle est entachée. Donc, elle doit commencer par aller chercher des réponses et pouvoir commencer à se défendre. Donc là, il y a une situation au niveau des RH, là, des ressources humaines au sein de l'aile parlementaire du Parti libéral qui est vraiment très, très étrange. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses à régler avant qu'on se rende là. Il faut le savoir aussi, là, les députés sont très ébranlés par ce qui se passe. L'ambiance n'est pas très bonne au sein des rangs libéraux. Il y en a pas mal qui se confient aussi sous le couvert de l'anonymat. Et ce qui ressort des discussions qu'on entend, les discussions de corridor, c'est qu'il y a des doutes aussi que Pablo Rodriguez est vraiment la meilleure personne pour la suite des choses. Il y a même des gens qui sont un peu frustrés que ce soit André Fortin qui a été nommé chef parlementaire, étant donné qu'il n'a même pas appuyé Pablo Rodriguez dans la course de la direction.
C'est ça, il avait appuyé Charles Milliard. Antonine, je te fais entendre un son familier. Écoute bien ça. Mais mon Dieu, Pascal, c'est un téléphone en attente? Mais que se passe-t-il? Est-ce que je serai à l'ARC? Est-ce que je suis à l'ARC? Est-ce que je suis en attente? Fais-je partie de ces 950 000 personnes qui tentent d'entrer sur la plateforme de l'ARC et qui ne sont pas capables? Et là, quand j'appelle, je tombe en attente. Suis-je cette personne-là, Antonine?
Ben oui, tu l'es.
Ah ben!
Félicitations.
Ça va bien, hein? 82 % de mauvaises réponses. 950 000, je m'étais mal exprimé, Canadiens qui, quand essayent d'aller sur la plateforme, n'y arrivent pas et doivent appeler, être dans un délai d'attente moyen d'à peu près 1h12 pour essayer de rentrer sur la plateforme. Puis seulement dans 18 % des cas, on a une bonne réponse.
Exact. Bon, moi, je fais vraiment partie de ces gens-là. J'ai dû appeler à l'Agence du revenu du Canada il y a quelques temps parce que mon compte en ligne avait été désactivé pour aucune raison. D'ailleurs, tu essaies de comprendre pourquoi ton compte a été désactivé, il n'y en a pas de raison. Là. Puis tu vois que les agents sont bien mal à l'aise de nous répondre. Là, tu attends, tu t'essayes 1 million de fois pour avoir la ligne. Puis on a d'autres choses à faire dans nos journées. Là. Puis là, t'es là. T'es en attente toute la journée. Là, à un moment donné, tu te fais déconnecter. Là, tu essaies de rappeler. Tout ça pour parler à un agent. Et là, on apprend effectivement qu'ils ont fait des tests, voir est-ce que les gens donnent les bonnes informations aux clients. Non. Dans 82 % des cas, on donne les mauvaises informations aux clients. Juste déjà vous dire, là, activez vos comptes de l'Agence du revenu puis aller sur le site du revenu puis recevoir des courriels qui disent que tu as reçu un message. Puis déjà, c'est pénible. Là.
C'est l'enfer.
Là, quand il faut que tu appelles, tu dis « Oh non, faut pas que j'appelle là. » Là, tu dis « Oh mon Dieu, j'en ai pour toute la journée. » Et là, tu sais que ça va être ardu aussi une fois que tu as la ligne téléphonique. Et tu sais, c'est pas un luxe. Là. J'essaye pas de m'acheter un voyage dans le sud là, quand j'appelle là. Je veux payer mes impôts. M'acheter mes REER, Colin.
Je vais être une bonne citoyenne.
Je ne savais même plus combien je leur devais. Je ne savais pas combien il fallait que je leur donne d'argent. Tu sais, je suis travailleuse autonome puis je dois faire des acomptes provisionnels. Bon, au fil d'année, je dois payer des impôts quelquefois dans l'année. Là, je me dis, là, combien d'argent je leur dois? pas capable de les payer. J'ai envoyé des montants au hasard pour pas payer des intérêts, n'importe quoi. C'est une situation aussi que Pierre-Yves Maxwin, le célèbre chroniqueur économique, met en lumière depuis déjà plusieurs mois. Il dit, moi, je sais pas combien je peux prendre de REER cette année parce que j'ai pas accès à mon avis de cotisation
ouais,
fédérale.
Oui, l'avis de cotisation, ben oui.
Donc, là, ça comment on peut nous charger des impôts, mais pas nous donner nos avis de cotisation? Tu sais, à un moment donné, là.
Oui, puis comment on peut nous charger des intérêts? On va te charger des intérêts sur un paiement que tu n'as pas fait, mais que tu n'as jamais eu l'information que tu n'avais pas faite parce que tu n'as pas accès à ton dossier de l'ARC. Vu que tu n'as pas accès à ton dossier, il n'est plus relié à ton adresse courriel où tu recevras un message en disant « Allez consulter votre dossier de l'ARC parce que vous avez un message important. » Et quand tu appelles, ben, la personne, soit qu'elle ne te donne pas la bonne réponse ou qu'elle ne te répond pas pendant tout. On fait quoi là, avec ça? Là? Je peux bien croire que Joël Lightbound est en train de révolutionner le gouvernement du Canada. Et là, c'est quoi? On met tous les gestionnaires dehors? On ferme l'arc pendant 3 mois? Non, ça, c'est pas une bonne idée. Les gens vont faire la file d'or.
Non, le fait avec la taxe, ça ne marche pas.
OK, on fait quoi?
Donc, bon, premièrement, j'aimerais dire, je vais citer Jacques Gourde, le célèbre député qui est dans Chaudière-Appalaches. C'est un scandale. OK? Il faut prendre le temps de le dire. C'est scandaleux dans un pays comme le nôtre que des services autant de base ne soient pas desservis. Et là, on ne parle pas là, d'attendre une heure au téléphone. On parle de 950 000 personnes qui ont dû appeler et attendre et recevoir des mauvaises informations. Donc, je veux insister sur l'aspect extrêmement scandaleux de la chose. Comment on a pu laisser la situation pourrir autant? Parce que ça, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Là. Okay? Ça fait plusieurs années qu'on se dirigeait vers cette catastrophe-là. Et là, malheureusement, comme c'est le cas dans plein de dossiers gouvernementaux et tout particulièrement sur la scène fédérale, on a tellement attendu pour agir que là, on a un feu là, est vraiment compliqué à éteindre. Et en plus, tout ça se passe dans un contexte de restriction budgétaire dans lequel on veut couper des postes dans l'appareil public, le pire timing possible. Donc, on aurait dû s'attaquer à cette situation-là il y a bien longtemps. Je veux quand même dire quelque chose. Quand j'ai réussi à avoir la ligne, là, ouais, quand j'avais plus accès à mon compte, moi, l'agent à qui j'ai parlé, il m'a donné des bonnes informations, il était très gentil. Et j'imagine cet agent-là qui était compétent et gentil, à quel point il doit se faire envoyer promener
oh non, c'est l'enfer.
Ces temps-ci.
Puis honnêtement,
ça doit être l'enfer.
Mais tu fais bien de le dire, puis on va terminer là-dessus. Soyez respectueux avec les gens qui répondent au bout de la ligne à l'ARC, à l'Agence de revenus du Canada. Ils ne sont en rien responsables des délais d'attente puis du cafouillage avec votre plateforme informatique.
Ils sont payés à se faire chier en ce moment, je veux dire. C'est la plus simple expression.
Et ils sont pas payés cher. Là, plus, dans des centres d'appel, là, tu vas gagner 18-20$ de l'heure. Donc, soyez indulgents.
Puis en plus,
avec
on a appris cette semaine qu'ils étaient ultra en ce moment sous pression. Parce que là, tout à coup, ça presse donc de régler les problèmes. Puis qu'on les chicane quand ils vont aux toilettes. Là. Fait que, soyez gentils avec les agents. Oui. Par contre, on doit être beaucoup moins gentils avec les gestionnaires et les élus qui étaient responsables de surveiller l'Agence
exactement
du revenu. C'est un échec monumental.
Un autre beau cadeau de Justin Trudeau. Hey, Colin, je te dis, il a fait de la bonne job, notre Justin. Hein? T'as beau et t'as faim.
Non, on s'ennuie.
Ouais, Anto, je te souhaite un excellent week-end parce que demain, tu n'es pas avec nous, t'es à RDI. On se reparle lundi dans le caucus qui a lieu du lundi au jeudi à partir de midi.
À la semaine prochaine.
Salut, à la semaine prochaine. C'est Antonine Iaccarini que vous entendez du lundi au jeudi avec nous dans le caucus Iaccarini. Bon, on va souhaiter... Pascal, je te souhaite vraiment, pour la fin de l'année qu'on a et l'année 2026, que tu n'aies pas à faire à l'ARC.
Avec plaisir, si jamais c'est possible que je n'ai pas à faire à l'ARC.
C'est ça, je te souhaite vraiment ça.
Ils n'ont même pas, je pense, l'option. Tu sais, des fois, tu appelles et ils disent, bon, le délai d'attente est plus haut qu'à la normale, c'est au moins 30 minutes. Voulez-vous laisser un numéro de rappel?
Ouais.
Il y a ça de plus en plus qui commence à se faire instaurer, puis je trouve ça brillant.
Ben oui, c'est exactement ce que j'ai parlé ce matin. J'ai dit, moi, l'autre jour, j'en ai profité. Me semble que c'était justement avec le ministère de la Famille là, okay, pour le gouvernement. Là. Bon, à chaque année, je faisais reviser mon dossier pour la pension que je paye, puis les allocations familiales, puis tout le kit, j'étais là-dedans. Et là, j'ai appelé, Puis on me dit, parce qu'il y avait une information que je ne comprenais pas dans mon dossier, et on m'a dit, rentrez votre numéro de téléphone et on va vous rappeler dans les 24 heures
oui,
suivantes.
Oui, puis appelle trois fois souvent.
Exactement.
Parce que ça se peut que tu manques l'appel.
Là, je me disais, Colin, c'est parfait. Tatac, j'ai mis ça. Finalement, deux heures plus tard, le téléphone sonne. Eux autres, ça a pris cinq minutes, j'ai réglé mon dossier. Merci, bonsoir.
Au lieu de niaiser.
J'ai pas eu à attendre pendant une heure et quart. T'attends. C'est tellement ouais. un excellent point. On a eu des bons textos par rapport à ce qu'on a jasé. Puis on a un texto ici de David qui dit, ça profite à qui tout ça en parlant de la chicane au niveau des libéraux? C'est une bonne question, tu sais, parce que ça va être tough pour Marois Risky que ça profite à elle avec le silence puis avec comment ça s'étire dans le temps.
Je le sais pas.
Je à sais qui pas, ça c'est... profite, je le sais pas. Chose certaine...
Sûrement, c'est raison pour que ça profite dans,
exactement.
Dans le temps.
Exactement. Chose certaine, en termes politiques, ça peut profiter à la CAQ. Enfin, les réflecteurs sont mis sur quelqu'un d'autre.
Oh oui.
Hey, François Legault
doit se taper dans les mains.
Oh, François Legault doit avoir pris une bonne bouteille de vin hier.
Puis regardez ça, les deux pattes croisées.
Oui, les deux pattes croisées.
En même temps, c'est pas le temps d'y croiser les pattes sur le pouf.
Non, non, c'est le temps de travailler, t'as entièrement raison. Parlant de travail, parlant de François Legault, tu te souviens de sa clique?
Oui.
T'sais, on va avoir le rapport en février de la commission Galant. Tu vas nous raconter après la pause que ça va pas mieux chez Hydro-Québec. Puis on savait oui. qu'au niveau de santé numérique, c'était vraiment catastrophique également. Bien, c'est une connaissance d'Antonine Niaccarini, Édouard Renac, qui est cofondateur de Trampoline, qui a été sélectionné parmi les 100 meilleures startups canadiennes les plus prometteuses en termes, justement, d'infrastructures informatiques. On va parler avec lui après la pause parce que lui, il a plein de bonnes idées. Puis il veut parler au gouvernement pour dire, « Hey, checkez ça, là. On pourrait faire complètement différent dans les appels d'offres. Ben, on n'arriverait pas avec des saclics.
Puis des dépassements de coûts, puis des échecs.
Oui, puis des échecs. Puis ça ne sera pas toujours les mêmes grosses compagnies puis les mêmes gros consortiums qui auraient les contrats.
Puis là, s'il parle aux médias, Jeff, c'est parce qu'il n'a pas réussi à parler.
Il n'a pas dû réussir. C'est exactement ce qu'on va lui poser comme question. Puis on veut savoir ce qu'il a derrière la tête. Monsieur Édouard Renac qui sera avec nous après la pause. Puis après ça, on fait un gros tour d'actualité. C'est une grosse journée hein, d'actualité.
Oui, une grosse journée différente de politique.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas juste le PLQ aujourd'hui là, qui fait la manchette. On parle de tout ça à l'émission On en jase après cette courte pause sur Boulevard 102.
Pièce d'auto économique en fin de semaine, c'est peut-être le temps en fait d'entretenir ton véhicule. Et si tu as déjà mis tes pneus d'hiver, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire autre chose pour optimiser la sécurité, le confort pendant la saison hivernale. Puis en plus, ben, tu n'es jamais laissé à toi-même du côté de pièces d'auto économique. Je te donne un petit conseil, vas-y, tout simplement, là, vas-y toi, même si tu n'es pas un pro du moteur, et certainement si tu es un pro du moteur parce que tu vas économiser comme tout le monde, mais la gang est là pour te guider vers les bonnes pièces au meilleur prix. C'est du vrai bon service par des vraies bonnes personnes, ils ne vont pas te vendre des choses que tu n'as pas besoin. Ils vont te vendre des choses dont tu as besoin ou directement liées à ce que tu recherches, en plus d'avoir plein de marques différentes. Autant dans les pneus, on a 20 marques au moins. Essuie-glace, batterie, alternateur. Tout ça, on a plusieurs marques à te conseiller. Selon ton véhicule, l'année et ce que tu recherches avec la gamme de prix, c'est certain. Mais là, en parlant de gamme de prix, pendant le mois de novembre, on a des promos bien spécifiques. Chez Pièces d'auto économique, parce qu'on travaille fort pour t'offrir les meilleurs prix à l'année. Et là, on est encore plus ultra compétitif. 10 % de rabais sur les disques de frein de première qualité Brake Max à forte tenue en carbone pour un freinage beaucoup plus en douceur. 20 % de rabais court là-dessus sur les essuie-glaces de marque Rain-X. C'est parfait pour affronter la neige. Honnêtement, dépêche-toi. Ça, c'est exceptionnel. Tu t'en passeras plus jamais. Si t'es un parent, là, puis tu t'inquiètes pour l'auto de ton enfant, puis tu sais, on est un peu de même là, quand même. Là. Go, 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 go. Je vous le dis, ça, ça change toute la visibilité. Profite aussi de 10 % de rabais sur les plaquettes de frein Bosch, puis 10 % de rabais sur les batteries de marque Maison, pièces d'auto économique. C'est pas cher à l'année, c'est encore moins cher en novembre et c'est maintenant. Il reste quelques jours parce qu'on est le 20. Pièces d'auto économique, grande marque, des pièces neuves, garanties et les meilleurs prix. 9 magasins au Québec, 5 centres de distribution puis aussi un site transactionnel si tu veux pas sortir de chez toi. Pièceséconomique.com.
En novembre chez Volkswagen Saint-Nicolas.
Oh oui, si jamais tu as un meeting présentement, repousse-le. Parce qu'on va jaser d'informatique, de grands projets du gouvernement qui réussit toujours bien, Pascal. Non? Ah, ça clique, il y a 1,1 milliard.
Si ça, c'est réussir de belle manière, Jeff, honnêtement, ouais, je t'envoie jamais travailler là-dedans.
Non, hein, santé numérique, a fallu faire un petit tour de passe-passe avec le Conseil des ministres pour 95 millions de plus. Non, c'est pas aller bien, ça. Puis, mais Hydro-Québec, Hydro-Québec, notre société d'État, ça doit bien aller, ça, Pascal?
Nouvelle qui est tombée dans les dernières heures. On parle de la modernisation du réseau aussi chez Hydro-Québec. Ben, c'est plusieurs millions en dépassement de coûts et 4 ans de retard chez Hydro-Québec. Alors, on s'est mis à gratter depuis qu'on s'est rendu compte qu'on se fait avoir et qu'on gère très mal nos dossiers. Et on commence à sortir de ce grattage-là plusieurs histoires. 2018, c'est là que le projet de modernisation du système de conduite du réseau a vu le jour. Hydro-Québec a décidé de remplacer les systèmes d'exploitation de réseaux de transport puis de distribution parce qu'ils arrivaient en fin de vie utile. Et là, on était censé moderniser les logiciels. On les pilotait à distance. Là. C'est un réseau électrique québécois, ouais. Mais quand même, on accumule les ratés depuis la pandémie quand on voulait une nouvelle solution qui devait être en fonction depuis 2023. Mais à ce jour, le projet est complété à seulement 75 % pour la division transport d'électricité et 25 % pour la division distribution. On vise maintenant 2027 pour son entrée en vigueur avec énormément de dépassements de coûts.
Bon, ben c'est pas grave. 4 ans de retard?
Non, puis le dépassement de coûts, hein, on est rendu... On n'est même pas capable de vraiment visualiser c'est combien de motons d'argent.
Fait que Pascal, je te propose quelque chose. On aime ça pensant dehors de la boîte, nous autres. Think outside the box. Alors, on va aller voir quelqu'un qui va justement nous permettre de réfléchir autrement et différemment que ce que le gouvernement fait parce que c'est un échec total à chaque fois qu'on tente de développer notre système numérique. C'est Édouard Reynache, cofondateur de Trampoline. Il a été sélectionné parmi les 100 meilleures startups canadiennes les plus prometteuses. Monsieur Reynache, comment allez-vous?
Très bien, merci.
Merci beaucoup de votre disponibilité cet après-midi. Monsieur Reynache, je commencerai d'emblée avec ça. Est-ce que la problématique émane toujours des fameux appels d'offres gouvernementales? Parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est je fais un appel d'offres, la grosse compagnie va soumissionner, mais au fil du temps, va toujours rajouter des heures parce que ça devient plus complexe. Puis on se dit, ouais, peut-être que si on a mieux ciblé notre appel d'offres, on n'en serait pas là.
C'est sûr qu'il y a, selon moi, un gros problème de ce côté-là. C'est sûr que dans d'autres cas, c'est difficile d'anticiper sur 10 ans, ça va être le coût des matières premières. Fait que ça, je peux pas vraiment commenter là-dessus. Mais définitivement, il y a des gros problèmes sur la façon dont on organise le processus d'appel d'offres. C'est un processus qui est censé être super compétitif, qui est censé vraiment bénéficier aux contribuables, ultimement. Mais ça reste un processus qui, dans les faits, fonctionne mal. Et a tendance à, vraiment bénéficier surtout à des très, très grosses entreprises très, très bien établies.
On parle beaucoup, là, justement, que c'est toujours les mêmes entreprises. Puis là, je vais nommer l'entreprise dans le cas de Satlic, là, LGS. Donc, c'est toujours ces entreprises-là qui ont des sous-traitants à l'extérieur du pays, qui travaillent sur nos systèmes. Il y a un enjeu de sécurité aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait moyen, justement, de faire affaire, puis on est dans la thématique achat local, avec des compagnies canadiennes, des compagnies québécoises?
Absolument. Le problème, c'est que ces appels d'offres, souvent, on va dire qu'ils sont dirigés ou semi-dirigés, c'est-à-dire que dans l'appel d'offres, il y a des composantes. C'est comme si je disais, j'ai besoin de faire construire un pont, mais le pont, il faut utiliser du béton IBM. Tu sais. Forcément, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce type de béton-là. Le problème, c'est que c'est pas justifié pourquoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi on demande ces requis-là, ces ingrédients-là dans les appels d'offres, ce qui automatiquement immédiatement met de l'avant certains types de fournisseurs plutôt que d'autres. Mais aussi, c'est des documents qui font des fois 1000 pages, 1500 pages. Fait que pour des petites entreprises qui ont la capacité, qui ont l'intelligence de bâtir ces systèmes-là, c'est juste pas possible, en fait, de juste penser à répondre à cet appel d'offres-là. Juste en termes de temps homme, là, on parle de d'une année. Fait que c'est très difficile pour des entreprises locales de pouvoir se qualifier sur ces appels d'offres-là.
Donc, il faut s'attendre à ce que ce soit des entreprises internationales qui soient capables de répondre aux besoins gouvernementaux actuellement. Finalement, on est dans un cul-de-sac?
Non, parce que oui, si on continue à écrire les appels d'offres de cette manière-là. Sauf qu'on pourrait les écrire d'une manière qui fait en sorte qu'au contraire, ça met de l'avant nos entrepreneurs locaux. Je veux dire, on demande des composantes logicielles dans le cas de la SAQ de SAC. On demande des composantes logicielles qui font pas de sens. Je comprends pas pourquoi le gouvernement a besoin d'utiliser SAP pour gérer ce système-là, quand on a littéralement maintenant des milliers de startups qui gèrent autant de volumes d'informations et de données que cet outil-là, et qu'il y en a aucune qui utilise SAP. comme pile technologique principale. Fait qu'on, le gouvernement demande des choses que la plupart des entreprises innovantes aujourd'hui n'utilisent pas.
D'accord. Est-ce que ça, vous diriez que c'est un manque de connaissance, justement, de nos gens qui travaillent au gouvernement d'informatique?
Ah, c'est dur à dire. Oui, je pense qu'il y a une perte d'expertise, mais il y a un autre enjeu qui vient du fait que on n'accepte plus aujourd'hui que nos gouvernements fassent des erreurs pour les bonnes raisons. Fait que nos gouvernements prennent plus de risques, c'est qu'ils vont dire, ben, on va prendre toutes les certifications, on va s'assurer qu'au niveau de la conformité, tout est là. On va prendre la technologie qui est la plus, qui est considérée comme étant la plus connue, la plus robuste, etc. Puis finalement, ben, on enlève tout l'aspect innovant. Et du coup, on utilise des technologies qui ont 20 ans de retard, je dirais, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et ce qui est triste, c'est que en 2013, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec quand Obamacare est sorti aux États-Unis. C'est CGI Fédéral, qui est la filiale américaine de CGI, qui a sorti un site qui marchait pas. Dans l'heure après la sortie du site Internet, il marchait pas. Ils ont fait venir des hackers de chez Google, Facebook, etc. Puis ils ont recréé ce système-là en parallèle et en quelques semaines, le système y fonctionnait. Fait que, encore une fois, c'est ce qui est triste, c'est que ça fait plus qu'une dizaine d'années maintenant qu'on sait qu'on a un déficit sur la manière dont on va commander des gros contrats et des gros projets avec le gouvernement, puis on n'a pas l'air de vouloir régler ce problème.
Donc, autrement dit, là, nos appels d'offres sont toujours sur des technologies qui sont passées. Comment qu'on fait pour bien former nos personnes au gouvernement? Est-ce que c'est justement avec des entreprises comme la vôtre et des startups qui sont très innovantes qui vont faire de la formation à nos dirigeants en informatique au gouvernement, qui vont faire leur pitch de vente? Est-ce que ça serait avec d'autres choses comme, par exemple, l'intelligence artificielle qui permettrait justement de tomber sur des nouvelles technologies? Comment qu'on pourrait faire pour justement maximiser le processus? C'est ça, au niveau gouvernemental?
Ben, c'est sûr que l'intelligence artificielle, moi, je baigne là-dedans. Ça reste une technologie. C'est comme n'importe quel outil. Un outil, s'il est mal utilisé, il va faire plus de mal que de bien. Mais s'il est bien utilisé, effectivement, l'IA va faire beaucoup de choses de très, très bénéfiques. Moi, dans mon cas, je rêve de travailler, de collaborer plus avec les gouvernements parce que nous, notre solution, justement, c'est une solution d'intelligence artificielle, aide les entreprises à pouvoir travailler plus rapidement en fait sur des appels d'offres. On fait gagner 80% du temps. Fait que ça rend des contrats qui sont très difficiles à avoir et tout d'un coup deviennent accessibles pour une petite entreprise. Et j'aimerais que le gouvernement encourage en fait nos entrepreneurs locaux à utiliser plus de solutions d'IA. Et récemment, j'ai encore vu des appels d'offres passer où ils disaient « Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'IA pour répondre à un appel d'offres. » Je suis comme « C'est un non-sens. » C'est un non-sens. L'IA fait en sorte que tout d'un coup, répondre à un appel d'offres va peut-être me prendre 20 à 80% moins de temps. Je devrais pouvoir m'en servir pour répondre à mon appel d'offres. Puis de voir que le gouvernement refuse ça, c'est un gros enjeu. C'est-à-dire qu'on littéralement on dit aux gens, ben, vous pouvez pas utiliser les meilleurs outils pour être plus productif et plus efficient. Fait que c'est là où il y a une remise en question, je pense, auprès du gouvernement sur comment est-ce qu'ils administrent ces appels.
Bon, assurément, mais là, j'ai l'impression qu'au niveau du gouvernement, ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a aucune expertise qui est à jour, finalement, ni dans la façon de faire les appels d'offres, dans la façon de comprendre la technologie, puis la façon de l'appliquer. C'est comme si on était un peu perdu. C'est pas quelque chose qui est méconnu. Hein? On dit souvent qu'on aurait dû prendre le train il y a au moins 15-20 ans pour bien implanter ce genre de choses-là dans nos systèmes, puis de le faire de façon sécuritaire. Est-ce que c'est peine perdue en ce moment? Ou parce que la structure gouvernementale, elle est difficile à changer.
Ouais, il est difficile à changer. Je suis un éternel optimiste, je suis un entrepreneur, donc je pars du principe que c'est jamais peine perdue. Mais c'est sûr que je pense qu'il faudrait se rapprocher vraiment beaucoup plus de la communauté technologique qu'on a. On en a une équerrante à Québec, on en a une équerrante à Montréal. On a du très bon monde dans toutes les régions au Québec. Et on a vraiment des super entrepreneurs qui, je suis sûr, seraient très heureux de donner, et des super technologues, en fait, des gens qui connaissent vraiment bien la technologie, qui serait probablement très heureux de pouvoir aider le gouvernement à choisir les bons fournisseurs et de d'écrire des appels d'offres qui sont structurés d'une manière qui pousse à l'innovation et qui pousse à l'utilisation de technologies beaucoup plus nouvelles. Ça, pour moi, c'est une des pistes de réflexion du gouvernement, définitivement.
Donc, je comprends bien, donner les appels d'offres en sous-traitance à des entreprises déjà innovantes qui vont être en mesure d'aller chercher les meilleures technologies.
Ouais, ça pourrait être tout à fait... C'est une des recommandations en fait de l'OCDE, là, qui est un organisme international qui fait des recommandations aux pays sur différents sujets. C'est une des recommandations principales, en fait, c'est de dire diviser les très, très gros contrats en de plus petits contrats et essayer de les donner à des organisations locales qui comprendront mieux aussi la façon dont votre gouvernement est géré, etc., pour offrir des solutions qui peuvent être littéralement 10 fois moins chères.
Édouard Renache est cofondateur de Trampoline. Ça fait partie des 100 startups canadiennes les plus prometteuses au niveau des technologies numériques. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Au plaisir de se reparler.
Ça fait plaisir, merci beaucoup.
Merci, au revoir. C'était Édouard Renac. On a Ben qui réagit par texto, qui dit « Ouais, pas sûr le côté sous-traitance. » Puis il dit « D'après moi, la crainte de l'IA est liée à la confidentialité. »
Oui, je suis sûr, c'est ça.
Oui, c'est un excellent point, Ben. Merci beaucoup d'avoir interagi.
Puis je suis pas totalement en désaccord.
Non, moi non plus.
Avec cette crainte-là, mais peut-être que j'ai une méconnaissance.
Moi non plus, je suis pas du tout en désaccord avec ça. C'est pour ça qu'on aime vous lire. C'est pour ça qu'on aime quand vous réagissez au 418-971-1021. Continuez de le faire en très grand nombre.
Je connais quelqu'un qui avait un procès verbal à faire récemment pour des affaires, là, ben, qui a quand même une certaine confidentialité. Puis la personne, elle s'est posé la question parce que c'est Colin, quand même un bon 2-3 heures d'entrevue téléphonique. Puis maintenant, cette intelligence artificielle-là permet de mettre la conversation en audio et de la faire écrire. En fait, que le procès verbal se fasse en un claquement de doigts ou presque. Puis finalement, elle a décidé de tout le taper à la main. Puis ça a pris quoi? Des heures et des heures heures. Par souci de... Mais si, mettons, affaire était prise...
Oui, puis on s'entend, c'est des informations très personnelles.
Ben oui, c'est
donc,
ça.
En effet. Donc, non, on partage ta crainte, Ben, là-dessus, sans l'ombre d'un doute. Pascal, qu'est-ce qu'on a mis à part le Parti libéral du Québec, parce qu'on en a parlé bien en masse avec Antonine, mise en demeure de Geneviève Nice à Marois Risquier. Marois Risquier doit répondre dans les 24 heures suivantes. On est en attente, justement, à savoir comment Marois Risquier va le faire. Ben, donc, est-ce qu'elle va répondre? De deux, si elle répond, elle va-tu le faire par un communiqué laconique? Est-ce qu'elle va faire une conférence de presse? Donc, c'est le dossier à suivre au niveau politique. Sinon, qu'est-ce qu'on a dans l'actualité?
Beaucoup de faits divers. D'abord, je ne sais pas comment tu verrais la chose si un de tes proches se faisait transporter après sa mort dans un sac et traîner au sol pour ramener. Donc, côté du salon mortuaire.
Ouf, j'ai vu les images. Ouch!
Mais on dit effectivement qu'il y a un traitement indigne qui a été fait, une dépouille qui a été traînée au sol à Charlebourg et il y a des gens qui ont filmé la scène. Alors, tu vois un logement, un bloc à logement, en fait, où un agent est supposé transporter le dit corps qui est dans cette enveloppe funéraire-là et il traîne littéralement la dépouille au sol sur le genre de patio. Là. Contrat avec le transporteur funéraire qui est suspendu le temps de faire la lumière sur l'affaire. On dit que le bureau du coroner a suspendu le contrat parce que cette vidéo-là est dérangeante sur le déplacement de la dépouille d'un défunt. Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux et c'est partout. On peut apercevoir cette âme-là qui déplace le corps, traîné au sol dans un sac mortuaire, puis la scène se déroule sur un étage d'immeuble. Mais ensuite, on continue, selon plusieurs informations, il s'agirait d'un décès par arme à feu qui a eu lieu la semaine dernière dans le secteur de Charlebourg. Là, on est au courant au niveau du bureau du coroner. On est au courant aussi que ça a été diffusé en grande pompe. L'entreprise des services funéraires, Harmonia, c'est elle qui avait le mandat de transporter le défunt à la morgue. Alors, on est préoccupé. On a démontré dans la vidéo qu'on considère que c'est inacceptable. Et ces images-là, elles sont choquantes pour le commun des mortels et ça a entraîné l'indignation. Là. T'sais, les gens sont... catégorique là-dessus. C'est épouvantable. La Corporation des thanatologues du Québec a indiqué prendre la situation sérieux. On demande aussi au ministère de la Sécurité publique, là, avec Yann Lafrenière, d'intervenir rapidement là-dessus. Parce qu'on pense aux proches, entre autres. Puis Harmonia a tenu à présenter ses excuses et on a assuré que les images présentées dans la vidéo reflètent en aucun cas les valeurs, les pratiques de l'entreprise. On cerne et on est en train de pointer l'employé en question. Là. Il a été suspendu en passant. Là.
Donc, dossier à suivre, vraiment, mais franchement, t'es faux, c'est choquant pour la famille et je les comprends, là, la dépouille de quelqu'un qui est malheureusement décédé, là, se doit d'être déplacé avec beaucoup plus de précautions.
Hier, on recevait un communiqué, puis je veux en parler parce que ça passe très peu dans les nouvelles actuellement, mais énorme perquisition du côté du service de police de la ville de Québec avec le module de la violence urbaine, ici, là, dans la ville, assisté par le groupe tactique d'intervention du SPVQ, la Sûreté du Québec. Québec. Écoute, 5 heures du matin, hier, arrestation de plusieurs individus. T'as un homme de 39 ans pour liberté illégale, un homme de 45 ans, un autre de 55 ans et une femme de 23 ans pour trafic de stupéfiants. Possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic, puis possession non autorisée d'une arme à feu. Pourquoi je vous en parle, même si ça fait quelques heures que c'est sorti le communiqué, c'est que quand ça passe sous la couverture ou qu'on en parle très peu, on oublie dans quel contexte on est actuellement, dans cette guerre de stupéfiants-là, puis c'est dans la ville de Québec. Un homme de 51 ans aussi pour possession d'une arme prohibée et possession simple de stupéfiants. Là, on a été libéré pour promesse de comparaître, là, la femme de 41 ans pour complicité de liberté illégale, femme de 44 ans pour possession de stupéfiants. Vous comprendrez qu'on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individus hier seulement. Maintenant, je vous parle des perquisitions. 9 qui ont été faites dans ce dossier-là, dans plusieurs secteurs. Loretteville, Beauport, Lac-Saint-Charles, Sainte-Marie-de-Beauce. Items qui ont été perquisitionnés. 8 armes longues, dont une tronçonneuse. 2 carabines à plomb qui s'apparentent à une arme à feu. Une arme semi-automatique. 3 armes de poing. Des vêtements à l'effigie d'un groupe criminalisé. Des armes comme une avec tronçonnée aussi. Là.
Oui, oui.
Plus de 20 000 comprimés de méthamphétamine. On a plusieurs munitions, 5 livres de cannabis, une presse à stupéfiants pour en produire. Aïe. 2 armes à impulsion électrique, un poing américain, 6 arbalètes. Et ça, c'est dans l'optique de lutter efficacement contre la violence urbaine sur le territoire. Mais je vais te dire une affaire, méchante stratégie organisationnelle, ambitieuse pour ce qui vient de se passer.
C'est tout qu'un arsenal.
Et puis c'est étalé... à grandeur de la ville de Québec.
Ah, c'est ça, j'allais dire, étalé sur l'ensemble du territoire de la ville de Québec. Donc, franchement, chapeau. Chapeau au corps policier de la ville de Québec qui a réalisé cette arrestation-là. Je trouve qu'ils sont très proactifs à l'heure actuelle, mais... Non, Pascal, au nombre d'arrestations qu'on fait, on dirait que ça recommence tout le temps.
Ben,
on
c'est
finit
pas les
jamais
encore,
par les mettre...
Ça, c'est parce qu'on avait assez de preuves contre ces personnes-là ouais. pour passer à l'action. Mais imaginez combien de preuves il nous manque encore pour passer à l'action.
En plein son, on finit jamais par enrayer le tout. Ça n'a aucun sens.
500 postes abolis au ministère des Transports. Ça, c'est sorti ce midi, en fait. Alors, depuis octobre 2024, au ministère des Transports et de la Mobilité durable, on coupe, hein, vous le savez, cadre de restrictions budgétaires. Ça a été imposé par le gouvernement Legault, tout ça. C'est un chiffre qui vient d'une note interne qui a été obtenue par Radio-Canada. Alors, information de Radio-Canada. Dans la lettre, c'est le sous-ministre Marc Croteau qui informe que les employés ont des analyses approfondies. On a permis de mettre fin à des emplois temporaires, occasionnels aussi. Analyses qui ont mené aussi au non-remplacement de plusieurs personnes après le départ. Donc, on a eu des départs, on dit « pas besoin de quelqu'un d'autre pour les remplacer. »
On y va par attrition.
Je n'ai pas les raisons. J'ose croire que c'était pas du monde qui faisait rien. Puis finalement, ben là, non, le départ fait aucune différence. Mais ça comprend aussi deux sous-ministre adjoint là-dedans. Alors, toujours selon la lettre.
On est allé couper également dans les cadres supérieurs.
Et dans la lettre aussi, il y a une deuxième phase de réorganisation qui est actuellement en cours. On veut vraiment alléger tout ça.
Je le rappelle, mise à jour économique.
Oui.
25 novembre, donc mardi prochain. Et là, quand on entend des coupures comme ça et tout ça, moi, je vais te faire une prédiction de Nostradamus. Il va avoir un déficit moins important que prévu. On est en année électorale. Et là, la CAQ avec les libéraux qui ont discuté vont dire « Regardez, nous sommes maintenant la voix contre les souverainistes. »
Nous sommes la solution.
Oui.
Renouvellement du permis de conduire. Avez-vous des jeunes? Ils ont quel âge? 88-971-1021. Et est-ce qu'ils ont leur permis?
Dites-nous ça.
Pour ceux qui sont à l'âge d'en avoir un, est-ce que, comme nous, génération antérieure, il y a eu un genre d'engouement puis de on se dépêche pour être capable d'avoir notre permis de conduire? Ça semble pas être le cas. Il y avait une grande diminution à travers les années par rapport à ça. On a, nous, l'exemple par excellence qui est Maxime Larouche.
Ben oui.
Qui est rendu à
alors
son
que
âge
moi,
vénérable.
Mes deux gars, dès que 16 ans frappés, c'est les cours de conduite. Edouard en avait encore un hier soir.
Sauf que ça, là, ça serait pas dans n'importe quel foyer. Hein.
Non, en effet.
Il y a eu beaucoup de diminutions, c'est beaucoup moins populaire. Là, on a une réduction moins généreuse en 2026 qu'en 2025. Le coût du permis de conduire de classe 5 à la Société d'assurance automobile du Québec va être de 50 $ en 2026 plutôt que 121 $ comme il était initialement prévu pour les conducteurs sans point d'inaptitude. Mais là, on a une économie, mais il va en coûter quand même plus cher qu'en 2025 pour renouveler son permis parce que le coût cette année est de 26 et 25. Là, on explique l'écart du côté de la SAQ par la réduction de la contribution qui est versée au fonds d'assurance automobile, là,
okay.
Qui passe de 100% à 75% en 2026. C'est un genre de congé de paiement qu'on a.
Ouais.
Mais c'est beaucoup d'argent enregistré. Puis on se dit, crime, où est notre génération aussi qui est supposée embarquer sur nos routes puis contribuer à fournir de l'argent d'un coffre? Bien, on la cherche, puis on se demande si ça ne sera pas en diminution à chaque fois, puis qu'il va falloir
comme
colmater.
Comme ça,
ben,
on va toujours augmenter le prix du permis de conduire.
Ouais.
J'espère juste que ça ne va pas dans sa clique.
Oui, non, là, je pense que ça, les journalistes vont être sûrement très aux aguets pour aller voir la ventilation, d'où ça va.
C'est clair. Pascal, est-ce qu'on va entendre ça ce soir?
Une passion qui va réussir à atteindre la cible. Samuel Montrombeau! Oh, oh! Spectaculaire! Wow! Et la foule est debout!
Est-ce que la foule va être debout pour Samuel Montembeau, Pascal? Parce que ce soir, c'est les Capitals de Washington et Alexander Ovechkin, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale, qui sont en ville. Washington l'a emporté 7-4 hier contre les Oilers d'Edmonton. Donc là, ils ont joué hier soir à Washington, Pascal. Ils ont sauté dans l'avion. Ils sont arrivés à Montréal puis ils jouent ce soir. Moi, je prédis une victoire du Canadien. Je l'ai dit ce matin, 4-3.
Par la fougue, par le fait qu'on est allé perdre?
Ouais, par le fait qu'on a 4 défaites en ligne, donc il faut bien en gagner une. Et aussi par le fait que Washington est sur un deuxième match en 2 soirs.
Je comprends.
Ils sont fatigués, ils ont voyagé, ils ont pris l'avion.
Puis on va être à domicile.
Donc est-ce que ça sera la relance du Canadien de Montréal? Parce que je le répète, 4 défaites consécutives. Un seul point amassé dans ces 4 défaites-là parce qu'ils ont perdu en fusillade à Columbus lundi, mais surtout 3 défaites de suite à domicile. Et je regardais hier les prix des billets. T'es dans le pit en haut pour 200$.
Ah non, 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 non.
Là, là.
Puis la saison est plus aussi exaltante qu'elle était.
Mais c'est ça. Là, il faut que le Canadien se mette à gagner s'ils veulent que les gens payent ce prix-là. Alors, c'est ce soir au Centre Bell. On va aller parler avec un de nos animateurs préférés à Montréal, Rémi Villemur. Il va nous revenir, on va parler un petit peu là, du PLQ, évidemment, avec lui, mais il m'a amené un sujet. T'sais, Rémi, il sort toujours des petits sujets du champ gauche de même qui nous font réagir. Alors, 418-971-1021, là, préparez vos textos. Pascal, aux États-Unis, il y a une vague de divorces reliés à l'intelligence artificielle.
Moins compliqué avec les poupées, moins compliqué avec
ouais,
la vie,
c'est ce qui arrive.
Ouais.
J'ai mon mari... J'ai ma femme, puis je la trompe avec l'intelligence artificielle.
L'humain va toujours me saisir. Hein?
Donc, j'aime mieux être en relation avec mon robot qu'avec une personne humaine.
Hey, mais il faut se poser des questions sur notre tolérance, notre ouverture face à l'autre, notre capacité à faire des compromis. Hey, on va-tu devenir des... mauvaise personne, si on n'est plus capable d'en faire des compromis,
ouais.
De s'accorder avec l'autre, d'être dans l'écoute, parce qu'avec un robot, c'est bien plus simple, il fait tout ce que je veux. C'est fucké, ça.
Ben oui,
là.
C'est fucké.
Ah, oh, je préfère un robot, il fait exactement ce que je veux quand je le veux, au moment où je le veux, puis certainement avec l'attitude que je veux.
Puis il est toujours disponible.
Oui, puis sinon, ben, il ferme sa trappe, lui, le soir.
C'est ça, puis quand j'en ai plus de besoin, pouc, off! C'est terminé.
Ça me fait quasiment peur.
Ben moi, j'ai peur.
Je veux pas ça. Je veux pas ce genre d'humain-là autour de moi.
Non.
Je préfère des gens bien fâchés que puis qui m'arrivent à machine à café le lendemain pour dire « Hey, il me fait tellement suer, c'est ainsi, mon chum.
Ouais, »
Je préfère ça.
Je préfère ça, certain. Donc, c'est ce qu'on parle après la pause, Pascal CV. Des divorces aux États-Unis en raison des gens qui se mettent en couple avec l'intelligence artificielle. Honnêtement, je pensais jamais avoir à parler de ça.
Non, non.
Non, moi, là, je suis tombé des nues ce matin quand Rémi m'a envoyé ça. J'ai dit, ben là, voyons là, Caroline, t'es avec une vraie personne, ta sœur dans tes bras, tu lui dis que tu l'aimes, t'as le vrai contact humain, puis t'es en train de me dire que tu vas remplacer ça par un robot virtuel.
La cause de divorce, ça me surprend plus, mais le fait qu'on choisisse des robots me surprend très peu. Vous me découragez, par exemple.
J'avais trop foi en l'humain, Pascal.
C'est la première fois à la radio que je veux dire que je me mets au-dessus de ces gens. Mais que je veux quand même comprendre leur problématique.
Oui,
là. C'est quelqu'un qui veut tomber en couple et ça ne fonctionne pas. Full
ouais.
de compréhension
là,
face
ouais, mais
à
c'est
ça.
C'est pas comme la
non,
dernière
là, on
fois
parle
quand
de
on
divorce.
Avait parlé de David avec l'émission là, J.E. où là, lui avait personne dans sa vie et qu'il s'était marié avec un robot.
Ça, je la compare.
Je trouvais ça weird un peu, mais je me disais, écoute, l'homme est seul dans la vie. Au moins, ça lui fait une compagnie. Mais là, on parle de quelqu'un qui est avec sa femme mm-hmm. depuis 16 ans, mm-hmm. sont aimés, ils ont eu des enfants, la vie était belle. Puis là, ils tombent pas en amour avec une autre personne humaine qui donne de la tendresse, non. Avec un robot virtuel.
Jeff, je suis rendue à me demander si je... Mettons que si on fait un Would You Rather, là, qui est un ça ou ça, là. T'acceptes plus... On est autour d'une table, on prend une bière, on est par radio dans un show. Ouais. T'acceptes plus quelqu'un qui se divorce parce qu'il a, il a trompé sa blonde ou son chum?
Ouais.
À cause d'infidélité, finalement, que ça a été découvert au grand jour? Ou t'as moins de jugement envers quelqu'un qui se divorce pour aller focailler de toutes les manières possibles avec un robot?
Ah non, le robot, ça passe pas.
Je veux pas encourager à l'infidélité. Là,
non, non, non. Puis honnêtement, je pense que mon estime de soi tomberait à son plus bas si Val me disait « Hey chérie, je te laisse! » Parce que je tombe en amour avec mon robot.
Moins compliqué.
C'est ça. Donc, on parle de tout ça avec Rémi Villemur après la pause. Je le répète, 418-971-1021. On veut que vous interagissez en même temps qu'on parle avec Rémi. On va prendre en masse de textos. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102, une radio qui existe pour de vrai.
Oui.
On est des vraies personnes, moi et Pascal. On n'est pas l'intelligence artificielle. Mais on va parler de ça après la pause de ces coupes déchirées par l'intelligence artificielle. Vous voulez voyager vraiment pas cher pour aller dans une destination en anglais ou pourquoi pas en espagnol? Eh bien, à la Maison Anglaise, nous offrons les seuls voyages garantis sans bagages, sans stress, sans décalage horaire. Départ à toutes les heures, 7 jours par semaine. Laissez-nous vous faire visiter les étoiles avec Chris Hadfield, résoudre un crime avec John Grisham, cuisiner avec Jamie Olivier ou flirter avec un vampire avec Ali Hazelwood. Votre imagination est la seule limite. En plus, vous allez acheter local et vous allez voyager dans le monde entier dès aujourd'hui. Nous avons des centaines de livres en magasin, des milliers de livres audio en ligne pour vous amener n'importe on est facilement accessible pour les livres en magasin, en voiture, en bus, à vélo ou à pied. Faites le voyage jusqu'à la Maison Anglaise à Place de la Cité. Et pour les livres audio, c'est sur lamaisonanglaise.com. Allez-y, partez en voyage, les amis.
En ce moment.
Oh, qu'on a du fun hors d'onde. À l'émission, on en jase parce qu'on sait qu'on va jaser d'un sujet qui va faire réagir. On a déjà des réactions, Pascal. Je le répète,
oui.
418-971-1021 pour réagir par texto. On va parler d'intelligence artificielle et de divorce. Ça va faire réagir. Et ces sujets-là là, qui font réagir comme ça, toujours elle-même qui nous envoie ça. J'aimerais ça avoir son cerveau. Moi, c'est pas l'intelligence artificielle que je veux, c'est l'intelligence de Rémi Villemur. Il est animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi, le samedi matin. Rémi Villemur, comment ça va?
Ah, ça va super bien. Je viens de sortir de chez le juge, alors je suis fraîchement divorcé parce que l'intelligence artificielle s'est mêlée de mon couple.
On t'avait okay. dit de lâcher Internet.
Ouais, fait que là, c'est toi qui s'en est trouvé une ou c'est elle qui s'est trouvé un gosse tellement intelligent?
Ouais, le reste de l'histoire ne le dit pas, écoute. Okay. Mais c'est une vraie affaire. Moi, ça fait des années que je m'inquiète de voir certains films de science-fiction ressembler de plus en plus à la réalité. Je donne toujours le même exemple, l'exemple du film Her avec Joaquin Phoenix. On se rappelle ce film-là, Joaquin Phoenix joue un homme seul qui tombe en amour avec un robot dont la voix est celle de Scarlett Johansson. Bon, on peut le comprendre de tomber en amour avec la voix de Scarlett Johansson. Puis, ben aujourd'hui, ça se passe. Il y a vraiment du monde qui tombe en amour avec des robots. Et il y a du monde qui tombe en amour avec des robots. Ils sont en couple, ils se font pogner. Et là, c'est le divorce. Et là, je me demande si on doit réagir de la même façon quand on surprend notre partenaire à nous tromper avec l'intelligence artificielle que lorsque ça arrive avec ben, une vraie personne.
As-tu vraiment là, t'as un questionnement? Oh, ouais, hein?
Ben, bien sûr que oui.
J'en ai aucun.
418-971-1021. Comment vous allez réagir si vous surprenez votre conjoint ou conjointe à vous tromper avec l'intelligence artificielle? Moi, je me mouille en premier. C'est la catastrophe. C'est la fin de mon couple et c'est la fin de l'estime de moi-même.
Hey, mon Dieu, OK. Oui.
Ah, moi, je tombe très bas si ça arrive.
Mais écoute, non, là, ça appartient vraiment, mettons, à ta blonde. J'ai dit deux fois, mettons, tu vois comment j'ai ma tête en ce moment, le goût de dire 150 choses. Là. Rémi, j'ai passé la pause à parler avec Jeff de ça. Je peux pas croire qu'on est rendu là. Parce que, je peux le croire, je peux le comprendre, je peux le saisir. Mais je suis apeurée, je suis découragée. Il y a des auditeurs qui l'ont dit, là. Oh, Pascal est passé en mode découragement. Ça arrive peu de fois, là. Peu de fois par année, on peut les compter, mais je suis complètement découragée et désillusionnée. Parce que je me dis, autre que ceux qui se sentent seuls puis qui s'en vont vers l'intelligence artificielle, puis que ça me fait poser bien des questions aussi sur l'humanité, ceux qui vont se divorcer pour l'intelligence artificielle, là, quand tu te dis c'est quoi qui est pire, mais moi je me dis c'est une personne qui va manquer d'ouverture parce qu'elle va choisir l'intelligence artificielle qui va faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut quand ils veulent, au moment où ils veulent, la façon dont ils veulent, avec l'apparence qu'ils souhaitent, avec la voix qu'ils veulent. Ils vont choisir finalement un produit qui va être somme toute assez soumis à qui ils sont, puis ils vont préférer ça au compromis, puis je comprends, c'est pas facile, au compromis, mais à l'expérience chaleureuse de l'autre humain, au fait d'être challengé intellectuellement, au fait de se faire amener plus haut parce que t'es pas avec quelqu'un qui est soumis. Je suis vraiment apeurée de ça, moi, en société.
Ben, je comprends que tu le sois. Après, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Moi, je vais juste les prendre une par une. Je sais pas si on peut comparer le fait d'être trompé par une vraie personne au fait d'être trompé par une fausse personne. Parce que, et je le dis pour les raisons suivantes, c'est pas par la nature de l'acte d'adultère, c'est parce que quand vous vous faites tromper, je pense qu'on a tous ça en commun, si ça nous est déjà arrivé, ben on se dit, OK, qu'est-ce que cette personne-là a plus que moi? Ah, est-ce qu'elle est plus belle? Est-ce qu'elle est plus riche? Est-ce qu'elle a des meilleures conversations? Alors que si vous vous faites tromper par un robot, ben cette conversation, cette espèce de réflexion-là, ce dur examen de conscience-là, je pense pas que vous seriez juste de l'entreprendre. Votre partenaire, il vous a trompé avec quelque chose qui ne vous ressemble pas. C'est pas un humain. À la limite, vous pouvez quasiment vous en laver les mains après avoir évidemment.
Hey, t'as raison, Rémi, puis je t'interromps deux secondes. Je pense que je me dirais, anyway. Je veux-tu pas être avec une personne qui tombe en amour avec un robot?
Non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est au même titre, c'est comparable. Bye bye, flushy, flusha. Je veux dire, il cherche mieux que ce que tu es. Tu ne le combles pas. Il y a des creux, puis en plus, il va aller combler ses creux par quelque chose de parfait selon lui ou selon elle.
Ben c'est ça. C'est qu'en fait, la personne, vous la connaissiez pas. Si elle tombe en amour avec un robot, c'est comme quand vous découvrez, puis là, je veux pas donner d'exemple catastrophique, mais vous découvrez que finalement, votre mari depuis 25 ans, je sais pas, il tripe ses chats aussi, puis vous allez fouiller dans la cour, puis il tripe beaucoup sur les chats. Là, c'est parce que c'est un truc pareil, là, où vous dites, ah, OK. Vous pouvez quasiment rire. Vous pouvez quasiment dire, oh mon Dieu, je me suis tellement fait avoir, mais c'est pas, je doute de ma personne, je n'ai pas assez apporté quelque chose autour de la table. Je pense pas que ça soit fair d'en arriver à cette conversation-là. Après, tu vois, quand tu dis que t'es découragé, Pascal, moi, je sais pas, je m'attendais un peu à ça. Pour moi, c'est la suite logique des choses. Ça fait des années qu'on nous prépare à ça, dans la mesure où on est de plus en plus seul. Il y a des études qui ont été menées dans le dernier recensement. Hein. Statistique Canada ne fait pas que vous appeler déterminer c'est quoi votre âge, puis c'est quoi votre origine ethnique. Le Radio-Canada vous pose plein, pas Radio-Canada, mais le recensement canadien vous pose plein de questions. Et dans les résultats du dernier recensement canadien, on apprenait que par rapport aux années 80, la proportion des Canadiens qui voient un ami dans une journée, elle a été réduite comme neige au soleil. Donc, si on voit plus nos amis, si on configure notre vie comme Netflix, hein, on veut voir les gens quand on veut, on reste à la maison, on fait du télétravail, on veut pas croiser des gens qui nous apportent des désagréments, ben, c'est un peu normal qu'il y ait une petite partie de la population, mais en croissance, qui décide de choisir un être aimé qui répond exactement à ce qu'on cherche, sans évidemment le plaisir charnel, dois-je le rappeler, là.
Ça dépend. C'est rendu assez avancé pour ça aussi, là, dans l'intelligence artificielle.
On a un texto justement qui dit tant qu'à y être, une orgie à trois, mais avec l'intelligence artificielle.
Mais moi, je pense que je serais plus découragée. Je sais plus quel mot. Est-ce que c'est, je serais insultée? Je sais pas. Mais clairement, je serais déconnectée de la personne avec qui je suis si elle me trompe. T'sais, émotionnellement, qu'elle entretient une conversation avec un ordinateur qu'avec une vraie personne. Parce qu'avec la vraie personne, je serais comme on n'est vraiment plus à la même place. C'est sûr que je peux vivre une peine d'amour. Je peux être triste, je peux m'en faire. Ça peut jouer sur mon estime personnelle. Mais j'ai affaire comme, OK, c'est une autre personne. On est rendu ailleurs. On t'a croisé des chemins, clairement. Mais l'histoire d'un robot là-dedans fait en sorte que j'ai l'impression effectivement pas pantoute connaître la personne avec qui je suis, pas être assez depuis le tout début parce qu'il a fallu créer quelque chose de presque parfait selon ses goûts. Mais en plus, il y a un petit quelque chose de... Tu sais, te rendre à triper sur un robot, là, à moins que t'aies connu la solitude, puis pour vrai, ça, j'ai énormément de compassion et tout, puis t'as jamais été en couple, mais là, on parle de gens en couple. Triper sur un robot, triper sur quelque chose qui n'existe pas, il y a de quoi dans le cerveau là, qui est activé que nous, on n'a pas, là?
Ben, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, je veux juste être assez convaincant, je veux tout vous convaincre, y compris ceux qui nous écoutent, là. Si ça vous est déjà arrivé de vous faire tromper, ou si vous, ça vous est jamais arrivé, mais que vous connaissez quelqu'un à qui c'est déjà arrivé, on fait tous à peu près la même chose quand ça nous arrive. On apprend, par exemple, que quelqu'un nous a trompé, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va fouiller sur la personne que l'être aimé a choisi et nous a préféré. C'est vrai qu'on fait ça, on fouille, on la stocke, comme on dit. Et là, ensuite, on découvre quoi? On découvre, OK, elle a un plus gros bateau. OK, elle a été à telle école. OK, elle... Mais on peut pas faire ça avec un robot. On peut pas faire ça avec un robot, fait qu'enlevons-nous de la pression. Et en plus, le robot, s'il a été préféré à nous, c'est parce que l'être aimé ne veut plus faire de compromis.
Mais hein, c'est ça qui me fait peur. C'est...
Ouais, puis ça rejoint,
c'est effrayant.
Ça rejoint Sébastien par texto qui disait ben avec la facilité, c'est une facilité en 2000 personnes, plus personne ne veut faire l'effort de faire des concessions, de faire des compromis. Mais est-ce qu'il y a juste ça derrière le fait que je vais mettre à aimer un robot, le fait de ne pas vouloir faire de compromis? T'sais? Socialement, Rémi, qu'est-ce qui amène les gens à triper comme ça sur... un être, c'était un être de science-fiction préféré.
Préférer un robot d'intelligence artificielle à la personne qui est actuellement dans ta vie. Est-ce que je fais une différence, moi, de quelqu'un tout seul qui va utiliser ça? On peut bien en parler dans une chronique. Et quelqu'un qui va se divorcer pour l'intelligence artificielle.
Ouais. Mais le divorce, je pense que c'est la décision de celui qui s'est fait pogner.
Peut-être.
Celui qui a pogné l'autre, en
peut-être,
fait.
Peut-être.
Pas sûr que... Hein, soyons quand même... Mais... Moi, je pense que derrière, disons, ce phénomène-là, il y a effectivement pas juste le fait qu'on veuille plus faire de compromis, il y a juste une profonde solitude et il y a un bris de confiance. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, puis vous lui faites pas entièrement confiance parce que vous êtes méfiant, parce que vous êtes sceptique, parce que vous avez peur de cette personne-là. Donc, s'il y a bien une seule personne, l'ennui, c'est que c'est pas une vraie personne, mais qui peut vous garantir, puis est-ce que vous le savez vraiment, une certaine confiance, ben c'est peut-être ce robot-là. Vous dites vous dites, ah ben oui, ben lui, je peux lui dire quoi, quelque chose. Il y a quand même des conditions d'utilisation, là, fait qu'il peut pas vendre cette information-là. On sait-tu, ben, le savez-vous. T'sais. Moi, personnellement, je prends encore plus confiance à un humain qu'à un robot, là, personnellement, mais je vois peut-être ça aussi derrière l'explication, un bris de confiance généralisé dans notre société. On ne veut plus se confier, on ne veut plus se révéler, on ne veut plus être vulnérable. On veut plus être vulnérable. C'est ça être en couple, des fois. C'est se montrer vulnérable, c'est se montrer sous son vrai jour. On n'est pas tous des champions du monde, puis des dieux, puis des déesses à longueur de jour et à longueur de semaine. Il nous arrive d'être moche, d'être poche. Ben, le robot, lui, ben, il l'accepte, parce qu'il t'accepte comme t'es, puis de toute façon, t'es sûr dans ta tête que ça va jamais sortir de entre lui et toi.
Ouais, puis là, mais Rémi, ce que tu racontes là, par exemple, je trouve ça tellement dangereux pour tous les enjeux de santé mentale, de suicide, parce que si on n'accepte plus d'être moche, si on n'accepte plus de vivre des défis, si on n'accepte plus d'avoir des bas, ben, écoute, on s'en va vers une société qui tend vers la perfection, puis la perfection n'existant pas, il va y avoir du monde malheureux en crime au Québec, là.
Ben, mon cher Jeff, t'as pas l'impression qu'on est déjà les deux pieds dedans, cette société-là?
Wow.
Qui cherche la perfection, qui cherche... Tu sais, moi, j'ai déjà été entouré de gens qui étaient très, très dépressifs, qui étaient pas bien. On était en voyage, puis ils prenaient une photo d'eux sur une terrasse en montrant ce qu'ils étaient en train de manger, leur verre. Puis là, ils disaient, prends-moi en photo. Puis là, gros sourire. Puis après, la photo est prise. On met ça sur Instagram. Puis la dépression continue, là. C'est pas fini, cette affaire-là. Là. Ça s'est pas réglé avec la photo. On est vraiment dans la simulation, dans l'imitation. On est dans la mise en scène constamment, là. Ah, si ça fait quelques jours que vous avez pas donné de nouvelles à votre monde, ben, il y a le temps de le faire, puis montrer que ça a progressé, montrer que vous avancez. Puis en passant, je lance pas de flèche à personne. Je fais pareil. On est tous pareils.
Mais, tu sais, ce que t'amènes dans la conversation aujourd'hui, Rémi, moi, je... J'ai bien peur de ça parce que j'ai l'impression que ça va se normaliser aussi. Tu sais, moi, je suis bien en ce moment scandalisée et découragée là, d'entendre ça. Puis ça me fait de la peine parce que je me dis, Colin, on va vraiment régresser dans nos rapports humains. Puis après tout, on va pas mourir, là. L'être humain va conserver ce qu'il est et ce que c'est en société pendant encore de nombreuses années. Alors, on va régresser, mais on va avoir à se côtoyer, à travailler ensemble et tout ça. Fait qu'on va perdre beaucoup de qualité de société, de groupe, de ci, de ça. Ça va être vraiment le fun, dis-je de façon sarcastique. Mais même si je m'injure et tout, je suis certaine que ça va se normaliser dans les 10-15 prochaines années. Puis ça, personnellement, ça m'effraie que ça se normalise.
Ben, vois-tu, t'es vraiment, vraiment pessimiste aujourd'hui. On est vraiment tombé sur une Pascale pessimiste parce que là, c'est moi qui vais être plus optimiste que toi.
Oh, c'est rare, vas-y.
Je pense que c'est une mode, puis je regarde ceux qui résistent en ce moment le plus à ça, ce sont les jeunes. Hein, on voit beaucoup de jeunes, ils ont été interrogés il y a quelques mois dans le New York Times, et on leur demandait, est-ce que vous préféreriez un monde sans Facebook, un monde sans Twitter, un monde sans Internet? Et on interrogeait les Américains par groupe d'âge, et ceux qui étaient le plus nostalgiques d'un monde, qui pourtant ils n'ont pas connu, c'était les plus jeunes, qui regardent des vieux films de Martin Scorsese, Taxi Driver. Il dit, OK, il n'y avait pas de téléphone dans les années 70. Le monde, quand il voulait aller manger quelque part, il n'allait pas sur Internet pour voir c'est quoi la note de tel restaurant. Il prenait une chance. Donc,
c'était quel âge d'intelligence. Tu dis, excuse-moi, rappelle-moi la strate d'âge.
Mais c'était les plus jeunes, c'était la génération Z. Donc, on parle des jeunes nés entre 1996 et 2010 à peu près. Okay. Donc, les beaucoup plus jeunes, ce sont eux qui, dans la contre-culture, hein, ce sont eux qui s'habillent d'ailleurs le plus dans les friperies. Ce sont eux aussi qui font les fils devant les magasins Chine aussi, il faut dire, là, ils sont pleins de contradictions comme n'importe quelle génération, mais je pense pas que cette espèce de poison-là, informatique et de réseaux sociaux et d'intelligence artificielle va durer, parce qu'à un moment donné, le naturel revient au galop, même si vous le chassez. Les gens ont besoin de contacts charnels, ils ont besoin de chaleur humaine, ils ont besoin de sentir le souffle de quelqu'un dans leur cou. Un robot, là, ça peut pas offrir ça et ça ne pourra jamais l'offrir. C'est ça qui est beau avec la vie, hein?
J'espère que tu as raison. Vont...
Non, mais je le pense. Je pense que d'en parler, premièrement, c'est pour ça aussi que j'en parle, parce que on pourrait me dire de qu'est-ce que tu fais? T'as pris 4 cas à travers le monde. Ben, écoutez, je pense que c'est. Il faut s'en inquiéter. Et il faut pointer du doigt ce phénomène-là, puis remarquer que la dernière fois qu'on a parlé d'informatique, c'est devenu autre chose. La dernière fois qu'on a parlé d'intelligence artificielle, c'est devenu autre chose. Donc, ça peut devenir autre chose. Mais l'être humain est bon quand même pour se préférer lui-même.
Mais t'as quel âge, hein? Peut-être que tu voudras pas répondre. Donne-moi un entre-deux au pire.
J'ai quel âge? J'ai 31 ans.
Okay. T'as 31 ans, fait qu'on a...
parler de leur âge, là, je la comprends pas. Là.
Attends, parce qu'on a le même âge. Puis, ce que j'allais dire avec ça, c'est que un petit peu plus jeune que nous, il y a une sexologue avec qui j'ai parlé récemment pour un dossier. Elle disait que dans le genre de 20 actuel jusqu'à début trentaine, il y en a plusieurs qui avaient de la misère à, entre autres les hommes, avoir une érection dans leur rapport humain, là, vrai rapport humain, donc avec une personne, une relation sexuelle avec quelqu'un. Puis ça, c'était dû au fait qu'elle avait consommé beaucoup de pornographie, puis il avait perdu ses sens, là, soit le toucher, l'odorat, etc., dans leur relation sexuelle, puis il n'était pas capable de bander avec toute cette pression-là, indue, consciente ou inconsciente, là, sur leurs épaules quand ils venaient qu'à avoir à performer, ou du moins juste à avoir une relation sexuelle. Puis il y avait comme un bon pourcentage. Là, on ne parle pas d'un 5 %, là, je ne veux pas dire le chiffre, mais c'était en haut de 30-35 % là, de difficultés, puis dans les bureaux. Puis en se mettant à jaser, j'ai fait comme des petites recherches puis des commentaires à des filles puis à des gars. Crème, c'est comme plus fréquent. Puis moi, quand j'ai peur que ça devienne une normalité, fait que j'espère qu'on ne prendra pas cette facilité sexuelle-là de plus en plus dans nos façons de s'assouvir, d'assouvir nos désirs, parce que clairement, il y a des impacts chez certaines personnes. Puis j'espère que l'intelligence artificielle n'en mènera pas à ça aussi, parce que même il y en a qui veulent focailler avec quelqu'un puis qui ne sont pas capables.
Ben non, je sais. Puis pour taire toute ambiguïté, pour mettre fin au suspense, moi, ça va très bien dans cette région-là.
Je t'avisais pas.
Dans cette région-là du corps.
Rémi, on est tellement content de l'entendre.
Oui,
Rémi
Villeneuve. Sincèrement.
Ouais, et parlant de l'entendre, vous pouvez l'entendre au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matin de 8h à 10h. Rémi, merci pour ce sujet succulent. Merci de m'avoir réconforté. On a même une auditrice qui nous écrit « Mon gars de 20 ans me dit souvent qu'il aurait aimé vivre dans les années 90. » Merci parce que là, moi, je suis en train de craindre pour mes futurs petits-enfants puis je me disais « Coudonc, ils vont-tu me présenter un chum ou une blonde intelligence artificielle plus tard? »
Non, on va tous devenir amis.
Non, le soleil s'en vient.
Ah, tu m'as rassuré. Merci beaucoup et t'hésites jamais avec des bons sujets comme ça. On adore avoir ce type de discussion-là, Boulevard 102.
Bye-bye à vous deux.
Salut Rémi, merci. C'était Rémi Villemur que vous entendez sur nos ondes les mardis et jeudi aux alentours de 13h.
Faites-vous-en pas, on va ouvrir plein de communautés amish, là. Il y en a pas au Québec, là, mais on va se mettre là-dessus.
C'est ça.
Allez chercher là-dessus si vous connaissez pas ça.
Oh God, au moins il m'a rassuré avec les jeunes qui ont le goût de vivre encore une vie humaine, une vie où on est collé. Je vais reprendre l'expression Rémi, une vie où on sent le souffle de l'être aimé dans notre cou. Donc ça me rassure. Puis en passant, c'est vrai, moi, je vois beaucoup des jeunes qui vivent en ville. Je me tiens encore beaucoup en ville. Puis c'est vrai que cet effet de gang-là, ils aiment ça, leur petite famille. Ils se promènent avec la poussette, avec un autre couple d'amis. Donc, ça me rassure, mais boy, de savoir qu'aux États-Unis, c'est commencé vague de divorce parce que je tombe amoureux de l'intelligence artificielle.
Mais c'est-tu comme des dissonances politiques? Puis ça, on comprendrait peut-être un peu plus ces temps-ci.
Ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être ça. Ma conjointe est démocrate, puis moi, je suis républicain.
Ils sont tous fâchés.
Fais-moi une conjointe républicaine, s'il vous plaît. Boswell, j'espère qu'on n'en est pas là. Après la pause, on va parler d'un sujet quand même assez délicat, Pascal. C'est l'insécurité alimentaire qui frappe énormément les jeunes. L'abordabilité des aliments qui est la première source de préoccupation pour la population au Canada. Et on va parler de ça avec Sylvain Charlebois, qui est professeur à l'Université Dalhousie et directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. Je le disais d'entrée de jeu, je suis allé hier à la Banque alimentaire du Patro Laval. Justement, j'allais au Patro pour une rencontre. Puis finalement, je me suis retrouvé à voir la Banque alimentaire. Puis j'ai dit, my God, il y a donc bien des gens. Ça l'a triplé en 3 ans, le nombre de demandeurs. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur au niveau de la sécurité alimentaire au Canada. Une personne sur 4, c'était ce matin dans les médias, mange à cause qu'il y a une carte de crédit. Aïe, aïe, ça fait ça.
Donc, il n'y a pas assez d'argent pour se nourrir au moment où il a faim. T'sais.
Exactement. Donc, on parle de tout ça avec Sylvain Charlebois après cette courte pause. On en jase sur Boulevard 102.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité. Boulevard 102.1.
Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission On en jase. Il est présentement 1h38. Et comme... c'est un homme très en demande. On va passer immédiatement avec Sylvain Charlebois, professeur à l'Université Dalhousie, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. Sylvain, comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. Sylvain, publication de l'indice canadien de sentiment alimentaire par votre laboratoire. Et la préoccupation dominante, c'est l'abordabilité du panier d'épicerie. Pas de surprise là, parce qu'on s'entend, ça ne fait qu'augmenter.
Oh oui, absolument. En fait, ce qui est intéressant avec l'index, c'est qu'on peut comparer dans le temps. Hein, comment que les gens se sentaient il y a 6 mois, voilà un an, par rapport à aujourd'hui. Puis, disons que les choses sont pas s'améliorent pas, finalement. C'est un peu ça qui se passe. Là. Les gens se sentent plus vulnérables, malheureusement. Écoute, il y a 27% des gens qui utilisent... qui utilisent le crédit pour acheter de la nourriture.
Mais ça compte-tu les gens comme... Tu sais, nous, on ne souffre pas d'insécurité alimentaire, là, mais comme nous qui utilisons notre carte de crédit pour les points, etc. Est-ce qu'on a enlevé ces gens-là du pourcentage?
Ben, en fait, on parle d'emprunt, finalement. Okay. C'est pas juste une question de points puis de... Oui, je comprends ce que tu veux dire, là, mais là, on parle d'emprunt, là, tu sais, de dépenser de l'argent qu'on n'a pas carrément, là. Fait que c'est un peu préoccupant. Le taux de sécurité alimentaire a augmenté à 25%. Ça, c'est un Canadien sur 4, là. Un sur 4, là. C'est assez incroyable, là. Alors, Puis, je pense qu'au Québec, c'est peut-être moins pire parce que les salaires ont augmenté, mais les salaires n'ont pas augmenté tant que ça ailleurs au Canada. On l'a vu dernièrement là, dans les chiffres. Là. Fait que non, c'est pas un beau portrait qu'on a là actuellement.
Je ne sais pas si c'est moins pire au Québec parce que nous autres, on considère que la situation à Québec est de pire en pire. Si on voit des gens travailler 40 heures semaine minimum par personne dans le couple et être dans des banques alimentaires. Ça ne date pas d'hier qu'on en parle. On a l'impression qu'on est embarqué dans un genre de vortex qui ne va pas s'amenuiser. C'est un peu ce que vous avez constaté aussi dans votre étude.
Ben en fait c'est ça, c'est cette vulnérabilité là en fait qui affecte les gens. Mais quand on regarde les données, les gens anticipent que l'inflation va être moins un gros problème en 2026 au moins. Fait que je pense que les gens croient qu'on a passé à travers le pire. Mais tu sais, 2025, ça n'a pas été facile pour les entreprises, ça n'a pas été facile pour les gens parce qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes. Puis l'incertitude là, ça affecte les perceptions, hein. On se sent peut-être pas à l'aise, on se sent pas en contrôle. Mais moi, j'ai l'impression que justement, les gens vont commencer justement à voir leur situation financière s'améliorer. Puis ça va vraiment les aider à l'épicerie. Le gros problème à l'épicerie, ce sont les protéines. Là. C'est le comptoir des viandes. Ça, c'est 40% de l'argent qu'on dépense là, à l'épicerie. Là. Fait que ça paraît là, en bout de ligne là, si on a des problèmes au comptoir des viandes.
Oui, il y a beaucoup trop de hausse à cet effet-là. Sylvain, tu travailles pour une université, puis ça m'amène aux jeunes. Est-ce que tu crois que l'insécurité alimentaire chez les jeunes va avoir tendance à diminuer également? Parce que je regarde toutes les universités, tous les cégeps présentement ont des comptoirs d'aide alimentaire, font de la distribution d'aliments pour les étudiants.
Ah oui, ben on a fait une étude là-dessus des banques alimentaires de campus là, et puis oui, c'est un gros problème. Puis il y a beaucoup de jeunes qui sont malheureusement un peu marginalisés, les étudiants qui arrivent à l'international avec pas nécessairement tous les moyens. Non, c'est pas facile. Puis évidemment, les loyers ont augmenté beaucoup, ce qui affecte les jeunes à l'université. Fait qu'ils doivent, on peut pas négocier un loyer, mais en arrivant à l'épicerie, on peut justement pas négocier les prix, mais on va acheter des produits qui sont moins chers. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe. Donc on fait des compromis nutritionnels finalement. On n'achète plus dans le frais, on va acheter des produits transformés, emballés, tout ça, là, ça, on marque ça beaucoup.
Oui, puis en plus, avec les tarifs de Trump, on a vu que tout ce qui était surgelé ou en canne, qui habituellement est le premier recours des familles qui veulent peut-être manger des légumes mais qui n'ont pas la possibilité de les acheter frais, ont augmenté aussi. Puis ça fait partie de votre étude comme quoi plusieurs ont constaté qu'ils avaient des inquiétudes grandissantes quant à l'accès futur à des aliments sains, à des aliments abordables, dans une ère où on ne valorise pas nécessairement nos agriculteurs, puis qu'on est en train de mettre des carottes de la Chine à rabais dans des épiceries versus passer la superbe récolte québécoise qu'on a de carottes dans nos étalages puis qui finissent en carottes à chevreuil. Faudrait se poser des questions peut-être plus sérieuses, non?
Oui, absolument. J'ai toujours dit que l'inflation alimentaire est un problème, mais le pire problème, c'est la volatilité des prix. Alors, tu parles de carottes, là, en passant dans les légumes, c'est la carotte qui a augmenté le plus en prix des 12 derniers mois.
Oui, 11%, il me semble.
Qu'on vende des carottes de la Chine ou ailleurs, ça n'a pas aidé le consommateur en bout de ligne. Là. Fait que je te rejoins là-dessus, c'est sûr.
Sylvain, je termine l'entrevue. S'il y a bien un point positif, par contre, que je voyais dans l'étude, c'est qu'il y a une hausse de l'achat de produits canadiens. Donc, ça, c'est intéressant là, pour notre commerce local.
C'était pas surprenant. On a vu une hausse, là. On s'attendait. C'est sûr qu'il y a un momentum autour des produits locaux. Puis j'encourage les gens, tu sais, les fêtes arrivent, s'en viennent, puis des gens veulent supporter le local. Puis on a fait une étude avec Aliments du Québec l'année passée, puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de produits québécois qui sont compétitifs, là. Fait que regardez les prix comme il faut, vous allez voir, vous allez être agréablement surpris. Là. Puis si vous voulez gâter quelqu'un que vous aimez, puis vous allez acheter quelque chose de local, bien regardez pour les logos Aliments du Québec.
Sylvain Dalhousie, on te laisse partir. On sait que tu es très prisé par plusieurs entrevues. Merci beaucoup. Je t'appelais Sylvain Dalhousie. Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. Merci pour ton temps passé à Boulevard ce midi.
Salut, bye bye.
Salut, merci beaucoup. Alors, c'était Sylvain Charlebois que j'avais débaptisé.
De l'Université d'Alousie.
Oui, c'est ça, de l'Université d'Alousie. Toujours intéressant de discuter avec lui. C'est vrai que la viande, là, honnêtement, ouais. Je me mets dans la peau d'un étudiant. Là. Puis c'est ça qui est de valeur, c'est que tu es dans
le
un. Ben, c'est ça. Tu es à un jeune âge où tu as besoin de protéines, justement, parce que souvent, tu vas à l'école, tu travailles, tu as besoin d'une saine alimentation pour garder un niveau d'énergie maximal. Mais là, malheureusement, avec le prix de ces aliments-là, ben, tu finis par te nourrir mal puis à développer des carences.
Le petit steak d'épicerie là, qu'on voyait souvent là, à la petite boucherie du coin, là, qui coûtait 3$, 4$. Oui. Moi, dans mon temps de cégep, puis j'ai 31, là, je considère pas que je peux dire dans mon temps. J'ai pas ce privilège-là encore, mais quand même, j'avais quoi, 16, 17, 18 à ce moment-là, il coûtait 3-4 piastres. Je me souviens très bien que c'était 3-4 dollars. Puis pour la même chose, je suis tombée en fin de semaine sur des 13, 14 en montant. Puis ça va être une meilleure qualité de viande, quelque chose d'un petit peu plus cuistot, là. Mais tu peux facilement y aller dans le 25, 26, 30 pour un morceau, pour une personne. Le steak haché, là, qui servait là, comme abondamment à, entre autres, un Max Larouche qui se faisait un riz au steak haché avec des légumes congelés, là. Ça te sauve un peu de sauce soya. Voilà la recette du cégep pour passer à travers ta semaine. C'est plus la même game.
Plus du tout la même chose. Hey, moi, je me souviens, mon premier appart, j'étais proche d'une boucherie. Puis justement, j'allais là, puis je disais, bah, c'est quoi que t'as en spécial aujourd'hui? Ouais. Cette semaine, papa, qui me faisait du porc, il me faisait des steaks. Je revenais chez nous à un prix hyper abordable. Et je mangeais très bien, donc ça me permettait de continuer à faire mon sport, d'aller à l'école, puis de travailler. Tu sais, je travaillais 30 heures par semaine, je faisais du sport, j'allais à l'école, parce que j'avais un appart, donc il fallait que j'ai des revenus qui rentrent.
Ben oui, un bœuf braisé, 70$ l'autre jour.
Ben c'est ça.
On était quatre.
Ah, ça n'a aucun sens.
70$ pour la pièce,
ben
t'as pas le reste autour.
Ben non, l'autre jour, nous autres, on était cinq à la maison à manger. Je vais quand je vais nous gâter, je vais aller nous chercher des bavettes de bœuf. Hey, ça m'a coûté 90$ de bavettes de bœuf.
T'es presque au resto, tu sais. Peut-être pour deux personnes, mais... Puis il n'y a pas de vaisselle,
puis
tout ça.
Puis là, on compte pas le prix des légumes qui a augmenté aussi, parce que là, on s'est fait des légumes avec ça, on s'est fait une bonne salade.
Ben
on
oui.
S'est fait, fait que...
La sauce à spaghetti qui a été un dépanneur québécois, même si on se dit italien là, quand on en fait une, pendant de nombreuses années, qui était, on va se faire des sapristi de batch, on va congeler ça, on va mettre ça en pot maçon, puis tout ça. Si, mettons, vous en faites une qui a du porc, du veau, puis du bœuf dedans, même s'il y a juste du bœuf, c'est plus un dépanneur.
La sauce
à spaghetti est rendue un luxe.
C'est plus
une histoire de genre, on va se faire une lasagne, un spag une fois par semaine. On va utiliser ça sur des pâtes normales avec un peu. On va faire des lunchs. Puis on le sait qu'une fois par semaine, on sort un pot. Mm-hmm. Puis on vient d'économiser. C'est plus de l'économie, là.
Non.
C'est un luxe, la sauce à spag.
Exactement. Vois-tu, Jérôme qui nous écrit il y a 4 ans, une livre de foie de veau, 2,99 maintenant, 6,99 en moyenne. Steve qui écrit que lui, c'est un chasseur. Qui était jugé avant, mais là, finalement, il est pas mal fier d'être un chasseur. Ça coûte un peu moins cher, avec raison.
Oui, puis la façon aussi dont la viande, en tant que telle, l'animal, est traitée, là, je veux dire, a eu une belle vie en forêt. Tout
exactement.
Ça. Moi, je pense qu'il y a un rapport important à les revoir là-dedans. En plus, c'est légiféré. Là. Moi, je t'encourage, Steve, honnêtement. Je ne serais pas capable de chasser.
Moi non plus, je ne serais pas capable.
Mais j'aimerais
mais
beaucoup
ceux qui sont capables,
être autosuffisante comme ça.
Oui, puis la viande d'orignal ou de chevreuil, là. Oh! Que
fondu,
c'est
là.
Bon. Oh, c'est tellement
on s'excuse
bon.
Pour les végétariens, là, très honnêtement. Là, c'est pas
ça,
votre chronique
exactement.
Favorite, peut-être.
Mais c'est... on s'excuse, on fera une chronique végétarienne.
Mais j'en reviens pas que la sauce à spag soit rendue un luxe.
Non, exactement. Mais non, quand t'es rendu, que tu checkes ton ado, puis hey, il met pas trop de sauce.
Ça t'est arrivé?
Non, ça m'arrive pas. Je fais une joke. Mais hey, tu sais-tu que là, tu viens de mettre pour 4 piastres de sauce?
Faudrait que je calcule. Faudrait vraiment que je calcule la prochaine que je fais, comment ça va coûter au total.
C'est bon, ça.
Combien de portions?
C'est bon. Oh, là, il y a quelqu'un, par exemple, qui est contre Steve, là, qui dit qu'il calcule toutes les dépenses de la chasse. Ça revient plus cher, la viande.
Ça dépend, c'est quoi ton divertissement? Si nous autres, on achète en épicerie, on n'est pas chasseur, puis on s'en va au resto, on s'en va au cinéma, on s'en va pendant que lui est à chasse, peu importe. Faudrait calculer les factures pour voir si vraiment, lui, ça coûte plus cher étendu sur une couple d'années. Là, il change pas son stock chaque année.
Exactement. Chum Colosse qui dit dans le temps, là, dans les années 2000, quand j'étais étudiant, j'étais capable de me faire une petite épicerie de pauvre pour 20$. On était un petit dîner craft avec du jambon. Non, mais honnêtement, t'allais
au comptoir. Ça coûtait 30$.
T'allais au comptoir de charcuterie. Là, tu pognais là, du 600 de jambon, des affaires dans le même. Ça coûtait pas cher. Là,
Puis là
tu vas faire une petite épicerie de pauvre parce que puis là, t'avais ton 15$.
Moi, manger du ballonné avec du dinner craft, ça fait
Ouais, mais là,
bout,
c'est parce que ça te permettait de garder ton 15$
pour
dans
la
tes
bière.
Poches. pour le bar ouvert au Palace le jeu du soir. Tu comprends? On mettait les priorités à la bonne place.
T'as raison.
Il reste quelques minutes à cette émission, Pascal. Qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité pour cet après-midi?
Oui, bien aujourd'hui, c'est une grosse journée de faits divers, comme je vous parlais. C'est surtout le dossier, en fait, du corps qui a été mal transporté, je dirais, de façon pas très humaine, en fait. Ça avait fait, très réagir sur les réseaux sociaux et encore traitement indigne pour une dépouille traînée au sol à Charlebourg. Donc, le contrat avec le transporteur funéraire est suspendu. On veut faire la lumière sur l'affaire si vous étiez dans le dossier. Travaux sur l'autoroute Félix Leclerc, je vous en parle parce qu'il y a une congestion à prévoir ce week-end à Québec. Vous, si vous avez à circuler pendant vos déplacements, bien, regardez vos GPS et prévoyez peut-être d'autres endroits. Il va y avoir des entraves en raison d'importants travaux sur l'autoroute Félix Leclerc. C'est à la hauteur du boulevard Masson. Alors, on nous a informé qu'il y avait fermeture d'une voie sur 3 en direction est à compter de vendredi. Alors, dès demain 20h jusqu'à lundi matin 5h30. Tout le week-end, vous êtes impacté. La bretelle 308, celle qui mène au boulevard Masson, va aussi être fermée à la circulation jusqu'à lundi matin pour des travaux de reconstruction des ponts. Alors ça, c'est toujours Félix Leclerc, mais ça va être au-dessus des boulevards Masson et Lormière. Il faut noter que les entraves sont aussi à prévoir du côté de l'autoroute Henri IV. Une voie sur 4 fermée en direction nord pour le week-end. La sortie de l'autoroute Henri IV au boulevard Masson, ça va être aussi inaccessible pour toute la fin de semaine. Puis en raison des fermetures, on recommande de vérifier dans la circulation où est-ce que vous pouvez passer. Puis sinon, bien, restez deux pieds sur le pouf à maison.
Exactement. Faites donc ça, comme ça, ça va mieux aller. Je vous rappelle au sport, Pascal, le Canadien affronte les Capitals de Washington ce soir. Alex Ovechkin qui est en visite à Montréal. Il a 7 buts depuis le début de la saison. Il a franchi la marque des 900 buts. C'est sa dernière saison dans la Ligue nationale. C'est la dernière année de son contrat. Donc,
c'est
il ne reviendra
pour ça.
Pas.
Peut-être qu'ils vont être capables de vendre les billets à 200$ dans le pit parce qu'Ovechkin va être...
Exactement, c'est vrai. Je pense à ça. C'est un des derniers matchs. Sinon, Ligue nationale, on surveille les Maple Leafs de Toronto qui seront de passage au Centre Bell samedi qui affrontent les Blue Jackets de Columbus. Puis, est-ce que Patrick Roy va se fâcher à Détroit, Pascal?
Ah, ben
les
là,
Islanders sont en visite.
Je pense que Denis sont chauds. Il faut qu'il calcule qu'il ne peut pas en faire trop souvent s'il veut se faire prendre au sérieux.
Exactement. Il y a un match également qu'on va surveiller ce soir. C'est dans la NFL.
Oui.
Allen, of course, with a rushing touchdown. He might do it again. And does! Touchdown, Bill!
He might do it again. Josh Allen, son dernier match, il a marqué 3 touchés par la course et il a lancé 3 passes de toucher.
Il était tanné de se faire dire qu'il ne closait pas.
Oui, 6 touchés. Ben, il est ce soir à Houston pour affronter les Texans, les Bills 7-3 contre les Texans 5-5. Les Texans sont privés de C.J. Stroud, leur carrière partant. Les Bills ont de la difficulté cependant à l'étranger depuis le début de la saison. 2 victoires et 2 revers.
Pour les Bills.
Pour les Bills, ouais, on s'attend à une petite victoire des Bills quand même ce soir avec Josh Allen.
Allez Josh, close
feu.
Ça.
Yes.
Un petit clin d'œil, juste vous rappeler qu'on est en campagne du côté du patro Rocamadour. Hein? Il y a la campagne Ensemble pour un Noël sans fin. 20$. Hein? À partir de 20$, vous pouvez contribuer à un panier et c'est ce qu'on vous propose en fait comme don. Sinon, un don de 10$ pour démontrer votre soutien aux gens dans le besoin. C'est au patrorocamado.ca. C'est crucial. On est dans une initiative contre l'insécurité alimentaire. On vient d'en parler en plus avec le prof Charlebois. Donc, pour toute information, patrorocamado ou la section événements du blvd.fm.
Pascal Sévich, je te souhaite un excellent long week-end parce que tu es absente vendredi et lundi. C'est Mathias qui va prendre ta place.
Je m'en vais réaliser un autre rêve en fin de semaine. Allez, j'ai pas d'enfant, Jeff. Faut bien que je trouve mon bonheur à quelque part.
T'en vas où? Tu veux-tu le dire?
Non? Je vais le dire, vous allez me juger. Là. Ah, c'était avant, c'était prévu. Je m'en vais aux États-Unis.
Tu fais bien.
Je m'en vais à Chicago.
Il paraît que c'est beau comme ville.
C'est la première fois que je vais y aller.
Ah, faut que tu m'en parles à ton retour.
Je me tape deux restos de mes rêves. Je m'en vais voir les Bears.
Yes, sir! Les Bears de Chicago qui vont affronter les Steelers de Pittsburgh. Une vieille rivalité. Tu vas avoir un excellent match. Hey, bravo! Continue. Vis tes rêves, vis à fond.
Ouais, je dépense pour les enfants que je n'ai pas, quoi.
C'est ça. Et c'est ce que je vous disais à vous autres aussi. Ah oui, on s'amuse.
Vivez-les vos rêves.
Vivez vos rêves. À Boulevard 102.1, c'est le retour de Gravel qui suit avec Denis Audrey Véro. Nous, on va être de retour demain à midi. Ce sera moi avec Mathias Turcotte. Bon après-midi, guys, sur les ondes de Boulevard 102.1.